Là, je l'ai fermé. Là, il est ouvert. Je viens de faire une blague à propos de mon micro ouvert qui en fait qui était fermé. Je viens de faire une blague à propos de mon micro ouvert qui en fait était fermé. Ne vieillissez pas. Ne vieillissez pas. La naufraise est un vieillage. C'est quoi, je fais un AVC en direct ou quoi? La vieillesse, c'est un naufrage. Il va falloir dormir un peu plus, Sam. C'est bien le problème. J'ai dormi. Je pense que c'est ça le souci. Je ne suis pas habitué. Hier soir, j'ai pas streamé. J'ai lu les journaux au lit tranquille. Et j'ai dormi. J'ai dormi. Et c'est ça le problème. C'est drôle. T'as coupé ton micro après avoir raclé ta gorge. Exactement, ouais. Hey Yastromo, hey champion, va t'informer ailleurs que sur tes comptes chelous sur X. Tiens, pour l'exclamation debunk, t'auras toutes les infos, les vraies infos. Ah, on a des nouveaux amis. Alors après la famille, t'en as pas marre de soutenir les femmes agressées? Après la famille, dis donc, comment ça se fait que tu dises que le RN c'est un parti d'extrême droite? On a la famille rend l'argent pervers. Souvent c'est la même famille. Salut Psycho Tic Tac, tu vas bien? Merci pour la force que tu donnes à la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme l'été là quand il y a les petites lampes pour attirer les moustiques. Moi j'ai une lampe ici, mais c'est pas les moustiques qu'elle attire. Hein. Quel est le lien entre ces communautés qu'on vient d'évoquer, entre ces trois clubs là? C'est pas les moustiques. Hein. Ah, vous me régalez. En tout cas, merci à tous ces sous-ensembles là, à ces sous-groupes là que je viens d'évoquer, puisque vous donnez une force incroyable à cette chaîne. Je n'ai jamais eu autant de viewers, jamais eu autant de belles stats. Voilà, vous êtes en train de me garantir des beaux jours brillants, quoi. Non, mais Psycho Tic Tac, c'est pour toi que je le disais, c'était toi que je mettais dans le troisième groupe. Mais je vais te répondre, psychotique. Reste avec moi, je vais te répondre, je vais t'expliquer tout. Éloigne-toi du radiateur au fond de la classe, voilà, et je vais tout t'expliquer, parce que je suis un peu déçu, je pensais que cette histoire ferait plus de bruit. Il y a un peu trop de gens intelligents dans notre pays, et du coup, les gens ont compris, et c'est dommage, parce que moi, je m'attendais un petit peu à, derrière, un peu de fame, un peu de stats, un peu de trucs. Je suis très déçu de la suite, quoi. Mais reste mon psycho. Comment ça va, vous? Reste psycho Tic Tac. Est du genre à rapprocher le piano du tabouret, celui-là. Alors ça, je l'ai pas, ça, le googie. J'aime bien. Oh là, on a un article sur les dans le monde, non, dans le monde, sur les musées, qui est magnifique d'ailleurs, à propos de culture. Il est du genre à rapprocher le piano du tabouret, celui-là. Ah! Je l'ai. Il est du genre à rapprocher le piano du tabouret. Alors celle-là, c'est une bonne. Alors celle, vous la connaissiez celle-là? Elle est jolie. Il est du genre à rapprocher. Mais si, mais Camille, je l'ai pas compris tout de suite. Parce qu'en fait, dans la phrase, en fait, le cerveau photographie la phrase et il voit pas le problème, tu vois. Il est du genre à rapprocher le piano du tabouret. Et toi, ton intelligence, sauf si tu traînes trop sur X, elle corrige. Elle corrige, celui-là, il est du genre à rapprocher le tabouret du piano. Sauf qu'en fait, la phrase, c'est celui-là, il est du genre à rapprocher le piano du tabouret. Parce que, sauf que ton cerveau a. Donc, voilà, elle est très bonne. Alors, il connaît le goût des feutres, ça, celle-là, je la connaissais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des news positives? Non! Non, parce qu'en fait, normalement, le samedi, c'est le samedi des bonnes nouvelles. On a mis ça en place il y a quelques temps. De toute façon, tout à fait artificielle, on s'est dit que le samedi, désormais, on mettait en avant les bonnes nouvelles de la semaine. Mais l'actu est trop forte. J'allais dire trop grosse, mais en ce moment, on met le mot grosse à toutes les sauces. Le mot est un peu galvaudé. Et donc, il y a trop d'actu entre ce qui se passe en Iran, la mort du soldat français dans le Kurdistan irakien, les municipales. Non, donc là, hier soir, j'ai lu les journaux, au lieu de streamer hier soir. Ah oh ben non, Anonyme 31, je voulais répondre à Psycho Tic Tac. Allez, Anonyme 31, remets-le-moi. Non, parce qu'en fait, moi, je crois à la pédagogie, et je pense que personne n'est irrécupérable. C'est pas parce que tu sais pas t'informer et que tu sais pas aller chercher des infos de qualité, c'est un débat que nous avons tous les jours ici depuis 5 ans, que tu es perdu pour la cause. Donc, est-ce qu'on peut unban Psycho Tic Tac, qui en plus nous fait un peu de content? Merci Anonyme 31, tu régales. On se le garde, on se le garde. Hey, c'est comme une collection de cartes Pokémon. Hein. Tant tu tombes sur un shiny, c'est pas tous les jours. Tu mets dans la collecte, tu mets dans le deck. Donc s'il vous plaît, laissons notre ami dans notre deck. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'actu est trop importante, quoi. Voilà. Et puis surtout, on a des municipales. On a des mus. Ah mais attends, on est. Mais on est en période de réserve électorale. Ah mais on en avait parlé. À partir du vendredi minuit, normalement, on peut pas. Eh ouais. Non, c'est pas qu'on peut parler des candidats, parce que tous les journaux ce matin sont sortis et parlent des candidats. On avait bossé là-dessus. On n'a pas le droit de faire de militantisme. Arrêtez avec les forbidden. Allez, réfléchissons ensemble plutôt. On n'a pas le droit de tenir de propos militants, en fait. On ne peut pas dire d'appeler pour telle ou telle personne. Voilà. La preuve, c'est que ce matin, par exemple, tous les journaux de presse écrite parlent des municipales et donnent, font une photographie, un instant T, des forces en présence, etc. Donc nous, on va s'inscrire ce matin dans cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas tenir de propos militants. D'ailleurs, on n'en tient jamais. Ici, hein, contrairement à ce que disent certains députés d'extrême droite, c'est pas une chaîne militante. Et attention, Charles Alloncle est peut-être sur le live. Bah, ça lui ferait du bien parce que comme il n'a pas tout à fait compris comment fonctionnait Twitch, Charlie, si tu es là, prends des notes hein, pour la prochaine fois qu'on se croisera parce que je pense que tu en auras besoin. Non, ok, donc on va pas être militant, mais ça, il n'y a aucun problème et donc on va être très factuel. Ok, pas de souci. Sauf si on milite pour la gentillesse. Oh, MMG, c'est trop mignon. Est-ce qu'on a le droit de dire que Psycho Tic Tac n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir quand même? Non, parce que nous sommes une chaîne de personnes bien intentionnées. Ouais. Ah, je vous kiffe, hein, il y a de la bonne humeur ce matin. Salut Samuel, félicitations encore. Ah, tu parles du bébé, toi. Hein. Je voudrais savoir si tu savais comment je pouvais m'informer sur les idées politiques de chaque parti, dit Corentin. Oui, factuellement, oui. Il y a vraiment des dossiers qui sont vraiment bien faits ce matin, quoi. C'est vraiment. C'est de Lacroix hier qui était très bon. Lacroix hier qui vraiment a proposé plusieurs pages sur les municipales avec les enjeux des uns et des autres, des partis, des villes et tout. Et là aujourd'hui, c'est Libération qui fait le même travail. Voilà. Torche-toi le cul avec ton deck vieux pervers. Toi, je t'aime, Psycho Tic Tac. Toi, t'es là pour le content. On est un peu sur les infos sérieuses ici. Un peu triste, un peu dramatique. Tu vois, on va parler de la mort du soldat français, là, par exemple, dans le Kurdistan irakien. Tu vois, parfois, on se prend la tête sur les sujets sérieux. Toi, t'es là pour nous faire rire, et ça, j'apprécie. Dans une société, il faut des Coluche. Il faut des Thierry Le Luron. Je connais moins les jeunes humoristes, mais voilà, il faut des gens. Il faut aussi des gens pour nous faire sourire. Je sais que tu es là pour ça ce matin, et c'est pour ça que tu es toujours là, d'ailleurs. C'est parce qu'on compte sur toi. Hein. Si tu pouvais rester jusqu'à la fin du live, s'il te plaît, par contre, ça me ferait plaisir. Attention que ça tourne pas au dîner de con. Bon, c'est l'heure du petit-déj, donc là-dessus on est plutôt. Alex Vizorek, bien sûr. Excellent. C'est pas possible, c'est scripté, c'est intervenant. Non, hélas, hélas, non, ce ne sont pas des gens que je paye, ce sont des gens qui existent vraiment. Voilà. C'est des gens qui s'informent beaucoup sur Internet, enfin Internet, sur les réseaux. Enfin non, sur les réseaux, sur X, pour dire les choses. Ça passe son temps à scroller, ou ça regarde certaines chaînes d'infos, enfin une en particulier. En général, voilà, c'est des profils un peu connus. Pas forcément très nombreux, mais très bruyants. On les aime bien, ça fait du content. Alors, d'ailleurs, on va répondre à notre ami. Que penses-tu d'Hugo Décrypte? Très bon travail. J'ai pété sa pub, me dit Madame Guesmer. Merci, Madame Guesmer. Il faut qu'on joue à Valo, d'ailleurs. Il faut qu'on joue à Valo, Madame Guesmer. Ça va relancer, peut-être, pourquoi pas ce soir. Est-ce qu'on peut s'informer sur X? Alors, qui me dit ça? On peut très bien s'informer sur X, mais il faut recouper les infos. Le problème, des infos de qualité sur X, il y en a. Mais le problème, c'est qu'elles sont très très dures à trouver. Depuis la reprise en main, le rachat par Elon Musk, en fait, ce réseau social a énormément changé. La modération qui déjà était insuffisante a été quasiment supprimée. Il suffit de scroller sur X et vous allez on va vous proposer des contenus que vous ne souhaitez pas. Je ne parle pas d'idées politiques, là, de choses beaucoup plus violentes, ouais, ou encore d'images pornographiques. Donc la modération a disparu sur X, première chose. Et l'algorithme, Voilà. Il y a même une plainte au niveau européen qui vise Elon Musk à ce sujet, qui a été convoquée d'ailleurs. Je ne sais pas s'il viendra à la convocation judiciaire, mais il y a une plainte sur ce sujet. L'algorithme, aujourd'hui, qui est évidemment qui est caché, hein, qui n'est pas public, l'algorithme de X met manifestement en avant certaines choses, voilà, et sous-expose le reste du contenu. Et donc, même si vous ne partagez pas, par exemple, certaines idées ou que vous n'appréciez pas certains contenus, l'algorithme va vous les proposer. Voilà. Et ça, c'est évident quand vous scrollez. Un jour, ce sera prouvé, parce que je vous rappelle qu'il y a des plaintes judiciaires sur ce sujet. Parce qu'en fait, ce que nous décrivons ici confine à la désinformation. Hein, de prendre certaines infos, et uniquement certaines infos, et de les mettre en avant. Alors, parfois, c'est des idées, parfois, c'est des contenus très problématiques. Et puis parfois aussi, c'est uniquement parce qu'en fait, l'algo a détecté que ce contenu-là va pouvoir faire du clic, du like, du retweet, quelle que soit la qualité de ce contenu. Mais l'important, c'est le trafic, c'est la quantité, c'est pas la qualité. Mais ça fait longtemps qu'on l'a compris. Un exemple tout simple qui est très amusant. Récemment, dans alors, l'histoire précédente, parce que moi, les histoires, je les collectionne. Et j'aime bien, d'ailleurs, je trouve ça assez amusant, c'est assez rigolo, parce que tout ça nous informe beaucoup sur la société de l'information dans laquelle nous vivons. Dans les histoires, les mini-polémiques que je collectionne en ce moment, l'avant-dernière, donc avant le Zizi Gate, dont on va revenir dans un instant, parce que certains sont un peu obsédés du Zizi ici. Hein. C'était celle d'avant, c'était. Ah oui, sur l'affaire de la commission de l'Assemblée nationale sur le duel public avec les mensonges du député à l'oncle sur X. Et donc, j'ai vu un tweet très intéressant de quelqu'un que je ne connaissais pas, un compte sous pseudonyme, qui disait: Ah, je m'excuse, je me suis totalement trompé, j'ai écrit quelque chose sur Samuel Etienne dans cette histoire, et en fait, je me suis totalement trompé. Voici le vrai truc. Bon. Donc le mec s'excuse d'avoir colporté, retweeté et amplifié d'une certaine manière une info mensongère à mon sujet. Donc je vois le tweet d'excuse, je dis, ah c'est cool, c'est rare, et je vois genre 7 likes ou 10 likes ou voilà. Okay. Et du coup, ben je vais voir le parce que du coup ce message-là était un retweet de son message initial qu'il regrettait. Le message initial fait 7000 likes, le message accusateur. Le message problématique accusateur fait 7000 likes. Le message d'excuse pour dire que le gars s'est trompé fait 7 likes. C'est le même émetteur. C'est la même personne qui tweet. Mais l'algo a décidé de push le premier message mensonger et pas le message d'excuse. Voilà. Et quand on me dit, ah mais non, mais l'algo, il n'est pas truqué, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est un tout petit exemple, mais tout fonctionne comme ça. Donc, s'informer sur X, c'est possible, mais c'est très 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 compliqué parce que comment tu fais le tri entre les infos que l'algo te pousse en avant, qu'il faut écarter sans arrêt et trouver les bonnes, franchement, va lire Le Monde, hein. Tu vas moins perdre ton temps que scroller pendant des heures sur X, quoi. Tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas avoir le temps en tant que citoyen d'essayer de débunker toutes les fausses informations sur la plateforme. Tu peux pas. Tu vois, il y a par exemple Nelio qui dit personnellement, j'aime bien l'idée de faire le tri moi-même. L'algo propose, je dispose. Bien utiliser, X est un outil très puissant. Aujourd'hui, X est un outil qui est foutu, qui est cassé, qui est inutilisable. En revanche, recouper les infos est primordial et prend un peu plus de temps, c'est vrai. En tant que citoyen, même si tu y passes 24 heures, même si tu ne travailles pas, même si tu ne fais que ça, tu ne peux plus t'informer sur X. C'est impossible. C'est impossible. L'outil est foutu. Tu ne peux pas. Tu n'es pas armé. Tu n'as pas les outils. Alors, où est-ce qu'il est notre ami tout à l'heure qu'on a gardé notre Shiny là, parce que je voulais lui répondre sur le Zizi Gate, parce que y a beaucoup de gens obsédés par mon Zizi en ce moment. Est-ce que vous vous rappelez de son pseudo que je puisse lui répondre, parce qu'on l'a gardé avec nous? Est-ce que vous pouvez me rappeler son pseudo? Parce que vous êtes très nombreux ce matin. Faites-moi plaisir, allez voir la vidéo Zizi Gate, pour l'exclamation Zizi Gate. Vous vous rappelez de son pseudo? S'il vous plaît, que je puisse lui répondre. Psycho-tic-tac, psycho-tic-tac. Alors je t'explique. Donc le message c'était, je sais pas quoi, vieux pervers. Sur le fameux réseau du chétan, ces dernières heures, j'ai vu des accusations notamment de pédophilie. C'est waouh! C'est avec des milliers de likes. C'est très... Bon, moi, ça ne me touche plus ces choses-là. Parce que je suis habitué, je suis vieux, puis ça fait longtemps que je traîne sur les réseaux. Et franchement, allez voir, c'est monstrueux. Et je parle de pas de tweets isolés, je parle de tweets qui sont likés par des milliers de personnes. Avec des accusations de pédophilie. Et je pense que monsieur, notre ami, a sans doute vu ce genre de tweet pour venir sur ma chaîne un samedi matin, prendre du temps pour venir m'accuser de vieux pervers. L'histoire du zigzag est très très drôle, j'ai déjà raconté, je ne vais pas la raconter parce que ça dure 3 quarts d'heure. Je crois avoir cut le live, je vais aux toilettes, j'ai pas cut le live, je reviens, j'ai pas fini ma petite affaire, on est sauvé par le sommaire. On est sauvé par le sommaire. Le sommaire, il est là, il est très gros, on aime bien les grosses choses ici. Le sommaire, il est là. Bon, ce jour-là est un peu plus gros, tant mieux, il y avait plus d'actu. Et du coup, on est sauvé par le sommaire, on ne voit pas la chose, on ne voit pas l'engin. Mais on devine que, puisqu'on voit un petit bout de ma cuisse, on devine que je ne suis pas super habillé. Donc, on est sauvé. Et donc, j'en ris plutôt, je trouve ça amusant, on en fait même une petite vidéo, on raconte ça, voilà. Et on supprime tout de suite à instant tout ça pour que ce ne soit pas utilisé, puisqu'on connaît maintenant Internet et on connaît X, on connaît les gratteurs de likes, avec de mauvaises intentions. Mais sachant que on n'a rien vu. Le raid avait été fait, tout le monde était parti, il reste quelques fidèles qui restent sur la chaîne parce qu'ils discutent entre eux, et donc effectivement, ils ne voient rien, parce qu'il n'y a rien à voir. Donc, et malgré le debunk, malgré l'explication, malgré la suppression des images, on va se rendre compte le lendemain de quoi? Que il existe des boîtes qui, pour des raisons que j'ignore, un jour on saura tout ça, il y a des boîtes qui enregistrent les lives, les VOD, voilà, et qui, alors de quelle chaîne, je ne sais pas, sans doute pas toutes les chaînes, c'est un peu étrange, pourquoi ma chaîne, je ne sais pas. Et qui, moyennant rétribution, propose à quiconque éventuellement de pouvoir récupérer le contenu d'un live, même supprimé, puisque nous, on l'avait supprimé. Voilà. Donc, on apprend l'existence de ce genre d'entreprise. Voilà, il y en a peut-être une, il y en a peut-être deux, je ne sais pas. Et je sais que c'est moyennant rétribution, puisque un des viewers ici en a parlé, il a dit qu'il avait payé 15 euros pour accéder à mon live supprimé. Donc, des gens que je ne connais pas et j'ai pas envie de les connaître, je sais pas que ça à foutre, ont payé cet argent pour avoir cette vidéo et après sont allés prendre la petite séquence dont on parle ici. Dans quel but? Ah bah, on imagine bien dans quel but. Et ont pris cette petite séquence de la fin où on ne voit rien, mais on aurait pu voir. Et c'est ça qui est drôle, parce que j'aurais été bien gêné si on avait vu. Mais cette scène où on ne voit rien, mais on aurait pu voir, ils sont allés la découper, voilà. Ils sont allés, c'est là où c'est, je sais pas si c'est génial ou très con. Ils sont allés flouter ce qu'on ne voyait pas. Parce qu'en fait, s'ils montrent vraiment la séquence, bah on voit qu'on ne voit pas. On voit qu'on est sauvé par le sommaire. Donc, c'est très embêtant. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de drama. Donc, ils sont allés flouter cette petite zone du sommaire qui cache l'engin qu'on ne voulait pas montrer, hein, pour bah, qu'il y ait quelque chose. Parce que si tu floutes, oui, le floutage est énorme du coup. Si tu floutes, c'est que tu caches quelque chose. Mais c'est quand même un floutage qui ne cache rien, parce que quand on enlève le flou, il n'y a rien, il y a le sommaire. Et c'est là que peut démarrer le drama. Alors d'ailleurs, c'est du floutage de gueule. Et notre ami là qui est venu nous accuser d'être un pervers à l'instant, bon, très distrait, un peu vieux, un peu fatigué, oui, tout ce que tu veux, bien sûr, hein, j'ai l'âge de mes artères. Mais pervers, non. Tout le monde, tous les gens qui ont un petit peu réfléchi au sujet, qui sont allés voir la fameuse vidéo, point d'exclamation, Z-Z-Gate, ont bien vu que c'était à la fois la distraction et surtout qu'on n'a rien vu. Mais le truc magique, c'est quand même le flou sur le sommaire qui fait qu'il y a quelque chose. Et après, avec les gens qui s'informent un peu rapidement et qui suivent certains comptes et pas des bons comptes, eh bien, ça donne Samuel à montrer sa bite sur Twitch. Et alors après, quand tu rajoutes quelques mots, pour que ça devienne vraiment une polémique, Samuel a montré sa bite sur Twitch à des enfants. Parce qu'il a un Tintin dans son décor. Tout ça, c'est sur X. Tous ces commentaires, vous pouvez les lire. Parce que son public, c'est un public d'enfants. Oui, bien sûr. Le matin, en semaine. Hein, le fameux public d'enfants de Samuel Etienne. Et donc, il a montré sa bite alors qu'il n'a pas montré. Ah, il a un public d'enfants. Et donc c'est un pédophile. Tout ça est écrit, hein. Et il y a des milliers de likes sur ces messages. Est-ce que dans les milliers de likes, combien de personnes vont aller voir la fameuse vidéo, la vraie vidéo, celle qui est disponible sur YouTube, hein, que moi j'ai mis, hein. Tout ça est vérifiable pour l'exclamation Zizigate. Combien de ces milliers de personnes qui ont liké ces messages sont allées voir la vidéo? Aucune. Ben non, parce qu'à un moment, il faut bosser, quoi. Voilà. Donc, on va faire un sondage. Donc, on va faire un sondage. Les gens qui ont liké ces tweets sont-ils mal intentionnés? Mal informé? Mal intentionné, mal informé. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? C'est vous qui proposez. Un peu con. Un peu con. À un moment, il faut dire les termes. On est sur Twitch, on n'est pas sur France 3. Un peu con. Obsédé par mon zizi, parce que quand même, on sent que. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est des histoires qui n'ont pas été réglées dans l'enfance par rapport à ça? Je sais pas. Obsédé par mon zizi? Ou. Ou un peu tout ça. Ou un peu tout ça. Vous avez 2 minutes, le sondage est en haut du chat. Et après, on ira sur l'actu. Désolé de cette parenthèse, mais il fallait que je réponde à nos amis là. Mais tout ça est très anecdotique. C'est juste une histoire qui me touche. On s'en fout. Je suis d'une poussière dans l'infini. Mais en revanche, cette histoire, elle est intéressante en ce sens qu'elle illustre la manière dont l'information circule dans notre société. Et là, c'est anecdotique. On s'en fout. Par exemple, cette histoire n'a aucune incidence sur la vitalité de ma chaîne. Cette histoire n'a aucune incidence sur mes relations avec des marques et des sponsors qui, elles, s'informent, savent s'informer au bon endroit. Donc il n'y a aucune conséquence pour moi. Cette histoire n'a aucune conséquence auprès des gens avec qui je travaille, ou encore de ma famille ou de mon épouse, qui, elle, connaît l'histoire. Vous voyez? Donc ça n'a aucune importance tout ça. Et vous voyez bien que je le vis plutôt bien, parce que je suis habitué maintenant. Mais en revanche, cette même histoire de désinformation, de comment l'information circule mal, appliquée à des sujets politiques, d'élections, démocratiques, de questions de santé publique. Voilà. Vous prenez le même processus, hein, et vous avez une info qui est totalement fausse, qui va devenir à un moment une vérité alternative, parce qu'elle a été affirmée par au début 2, 3, 4 personnes, mais likée par des centaines, puis par des milliers. Et quelqu'un me disait tout à l'heure, moi je peux m'informer de manière qualitative sur X, eh bien non, tu ne peux pas. En raison de ce que je viens de t'expliquer. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à vérifier, à débunker toutes les fausses informations qui vont être proposées toutes les minutes sur X. Tu n'as pas le temps de le faire. Et tu vas finir par être impacté par ça. Voilà. Donc cette histoire anecdotique, elle est intéressante en ce sens qu'elle nous dresse un panorama, une photographie inquiétante de la manière dont l'information circule aujourd'hui. Du coup, mon gars, je ne te répondais pas. Donc, tu réponds à ma réponse sur toi, mais je n'ai pas lu ton premier message. Alors, qu'est-ce que donne le sondage? Voilà. Il est où? Il est là, il est là. Alors, les gens qui ont liké ces tweets sont-ils obsédé par mon zizi, 10%. Un peu con, 7%. Mal informé, 5%. Mal intentionné, 5%. Sans doute un peu tout ça, 72%. Fin du débat. Merci. J'espère que notre ami Tic Tac, maintenant qu'il connaît l'histoire débunkée, va s'apaiser sur. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas écrit, mais sur les. Dis donc, vieux pervers. Bon, sinon vous, ça va? Comment se passe le week-end? Parce que mine de rien, on est en week-end, on va parler de l'Iran, on va parler de l'Irak, on va parler des municipales dans un instant. J'ai un bel article sur les musées, heureusement. Voilà. Ça va tranquille? Tu es le Francky Vincent de Twitch? Oui. Et je suis chevalier des arts et des lettres comme lui d'ailleurs. Perso, j'ai pas compris comment tu rentrais autant de pixels sur un écran. J'adore. Je suis dans les bras de mon amoureux, donc ça va, me dit le cœur et tient. Un peu de bonne nouvelle aujourd'hui, pas tant, mais un peu quand même à la fin. Il faut aller voter, oui. Dimanche, si je dis pas de bêtises. Pas de bonne nouvelle aujourd'hui? Non, il y a trop d'actu, je vous ai fait une revue de presse normale. On fait pas les bonnes nouvelles, non, c'est une actu classique, c'est une actu classique. Ouais. Merci Samuel, tu viens de me rappeler d'aller voir où est mon bureau de vote. Ça, vous trouvez ça sur Internet en deux clics, hein. Il vous faut votre numéro de carte d'électeur. Hein, si, ou, je pense qu'avec votre nom, ça devrait suffire pour trouver votre bureau de vote, quoi. Souvent, c'est les écoles, par exemple. Ça me fait plaisir, ton message plop. Ah non, ce n'est pas la disparition du journal des bonnes nouvelles. Aujourd'hui encore, ce matin, j'ai mis des. C'est écrit sur la carte d'électeur? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur carte d'électeur, Luna. Et attention, même si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous pouvez voter quand même. Dans les fausses informations qui peuvent circuler parfois sur le sujet, on vous dit si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Si, tu ne peux pas voter si tu n'es pas inscrit sur les listes des électorales. Et ça, tu peux le trouver en deux clics sur Internet, si tu es inscrit sur les listes électorales et dans quel bureau de vote, de quel bureau de vote tu dépends. Voilà. Et si tu n'as pas ta carte d'électeur parce que tu l'as perdue ou tu ne l'as pas reçue, tu viens voter avec une pièce d'identité. Hein. Personne ne. Tu peux te faire tamponner. Pardon, il faut que j'enchaîne la phrase, sinon cette phrase est bizarre. Tu peux te faire tamponner ta carte d'électeur si tu le souhaites, mais ça n'est pas une obligation, quoi. Une pièce d'identité, voilà. Et si on ne vote pas, ben c'est dommage, pense RoboScore, parce que si tu ne votes pas, même si l'exercice n'est pas toujours enthousiasmant, tu laisses les autres décider à ta place. Moi, j'ai toujours détesté que les autres décident à ma place. Donc, moi, c'est mon meilleur argument pour aller voter, c'est ça. Je vote jamais de manière enthousiaste, hein, comme je le dis souvent, je ne vais pas au bureau de vote en sautillant, en gobandant, en me disant, waouh, c'est super, ces élections. Puis, alors, vraiment, j'aime tellement ce candidat. Il va tellement mettre en œuvre tout son programme. Je suis tellement sûr qu'il va me redresser. Je ne devrais pas m'arrêter après des phrases comme ça. Me redresser la commune, slash la région, slash la France. Non, je ne me dis jamais ça, je ne suis pas complètement naïf. Mais je déteste l'idée que mon voisin décide à ma place et potentiellement choisisse un candidat encore pire que le mien. Voilà, c'est pour ça que je vote. Ah, merci à Lunera. Fun fact, vous pouvez même utiliser un permis de chasse pour voter, me dit Alex. Je viens de vérifier sur le site du gouvernement. C'est demain qu'on vote, ouais. Tu sais pour qui tu vas voter? Pff, non, faut que j'aille voir les. Tu sais, au niveau municipal, je connais pas trop les candidats. Je vais aller voir les professions de foi d'ici dimanche, les programmes, tout ça, quoi. Peut-être même carte vitale avec photo. Ouais, dans le doute, prenez une carte d'identité ou un passeport, ça ira bien. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? On essaie d'aller jusqu'à 12h30 et après j'irai manger avec la famille. Est-ce que tu penses que le taux de participation sera plus grand cette année? Bah, c'est une des questions importantes de cette élection. Ouais. Le fait d'aller voter alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui présente, c'est vraiment bizarre. Oui, Yaël Cringe. En fait, dans beaucoup de communes, on l'a vu hier dans un papier, je crois, c'est énorme, hein, dans plus de 68% des communes. Donc ça implique, ça compte toutes les petites villes et les villages. Il n'y a qu'une seule liste. Alors je comprends, 68%. Ah oh, putain, j'avais le bon chiffre en tête, merci MG. 68%. Il n'y a qu'une seule liste. Alors oui, je comprends que ce soit pas motivant d'aller voter que. Mais comme le dit à l'instant Yandereko, une seule liste chez nous, j'irai voter pour le principe. D'autant que vous ne pouvez pas panacher, vous ne pouvez pas rayer des noms de la liste unique, c'est interdit. Si vous rayez un seul nom sur une liste, pensant bien faire, votre bulletin est invalide. Donc vous ne votez pas, vous êtes déplacé pour rien. Donc oui, bah comme le dit Soul Caribou, c'est mieux qu'aucune. Une liste, c'est mieux qu'aucune. Au moins, il y a des gens qui sont proposés pour présider à la destinée de votre commune, de votre village, de votre petite ville. C'est mieux qu'il n'y en ait que rien. Donc peut-être se déplacer, c'est une façon de remercier ceux qui ont décidé, dans les petites villes, les petits villages, c'est pas vraiment pour. Pas vraiment pour le pouvoir ou l'argent que ça pourrait rapporter, quoi. Les gens qui ont décidé de consacrer du temps à la vie municipale. Se déplacer, c'est une façon de les remercier pour cet effort, quoi. Tu vois. 68 pourtant, c'est colossal. Oui, mais parce qu'il y a plein de toutes petites communes, mon Nozab. Voilà. S'il se passe quoi si aucune liste se présente? Alors la loi prévoit un truc, dans ce cas, je sais plus ce que c'est. Quand ça n'arrive pas souvent, hein, mais quand ça arrive, de mémoire, quand il n'y a pas de liste, je crois que c'est la préfecture qui, exceptionnellement, en quelque sorte, prend la main sur la commune et gère. Voilà, Popki me confirme, c'est sous la tutelle du préfet. Ben gère la ville, gère la commune. Non, c'est pas rattaché à une autre commune, c'est le préfet, parce que il y a des administrés et ils doivent être administrés. Et donc c'est la préfecture qui exceptionnellement gère les affaires de la ville, voilà, qui envoie un administrateur. Merci quoi l'absurde. En attendant ben, les prochaines élections et que quelqu'un se propose quoi. Et Madinette me précise, les habitants ont même un délai pour proposer un candidat avant que la préfecture en impose un. Ok, très intéressant. Point d'exclamation, Zizigate, SRD de pêche. Bon, on y va? On est peut-être prêt pour le sommaire? Comment ça, 7 ans les prochaines élections? C'est pas 5 ans un hein, mandat de maire? Je me trompe? C'est combien un mandat de maire? Non, c'est 6? C'est 6, non? Oh, je sais plus. Je sais même plus. C'est 6 ans. C'est 6 ans, ouais, c'est ça. 5 ans, c'est les députés. 5 ans, c'est le quinquennat. Depuis la réforme de Chirac, le président. Et maire, c'est 6 ans. Est-ce que vous êtes prêts? 7. Ah, c'est 7 à cause des présidentielles? C'est 6 ans, mais ce sera 7 ans la prochaine? Ah, les dernières élections, c'est 2020? Alors Camille me dit non, c'est faux. Ah, il y a un débat là-dessus. Bon, j'avoue que c'est absolument pas présent dans les médias, cette histoire. Ça peut passer à 7, mais rien n'est sûr, me dit génial, ok. Donc ce serait dans 7 ans ou 6 ans. 6 ans, mais ça pourrait être prolongé car carambolage avec les présidentielles. Attends, 2000, 2027 plus. Ah bah oui, ah oui, d'accord. Ah oui! 2032, nous aurions la prochaine présidentielle et municipale en même temps. Donc il y a une réflexion sur le pour que les élections ne se carambolent pas, pour que les municipales durent, que le mandat du maire dure un an de plus. Ok. Ben ça, je l'avais pas, ça. Bien joué. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont très forts. Communauté de goat. Voilà. Pourquoi c'est bien Twitch pour s'informer pour ça? Le gars, le vieux là, il donne des infos, il émet des infos, il essaye de donner des infos les plus carrées possibles, sauf qu'en face, t'as une communauté de goats, de gens qui connaissent, de gens qui cherchent, de gens qui débunkent, de gens qui vérifient, des gens qui savent s'informer, et hop, ça donne des infos. Paf, 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 paf. C'est incroyable. Sinon, on fait l'élection présidentielle cette année, comme ça on est tranquille. Ouais, mais ils arrangent pas tout le monde, il y en a qui sont inéligibles et tout, souille, c'est pas sûr ça. Allez, on y va? Let's go? Salut mon ciel, JM25, merci pour la force que tu donnes à la chaîne. Et bisous à Charles-Henri. On y va, vous êtes prêts? Prends un coca, moi. Vous êtes chaud? Chaud patate? Top à la vachette? Moi, je suis ici parce que j'ai entendu le mot zizi, après j'ai rien compris. Point d'exclamation, zizi gate. Vous avez toute la vidéo. Tiens, pourquoi j'ai une image qui est frisée? Vous avez une image frisée, vous aussi? On y va. Top à la vachette. Non, c'est bon. Bon, j'ai beaucoup d'actu. On commence par le sommaire. Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube là? Pas grand-chose en fait. Tout est trop gros. Le sommaire est petit, mais les articles sont très longs. C'est des gros dossiers, c'est assez passionnant. J'ai rien à mettre moi sur YouTube là. Ah si, peut-être. Peut-être le premier sujet quand même sur la mort d'un soldat. Ah, on l'a fait hier. Tous les enjeux, non, on va rien mettre parce que le dossier municipal, littéralement, il va durer 1 heure et demie, ça va être trop long. Vous avez quoi, les amis? On est entre nous sur Twitch là. Par contre, c'est un petit sommaire. Il est plus petit que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a moins d'entrées. Il y a des gros dossiers, mais il y a moins d'entrées. Alors, le problème d'un petit sommaire, c'est en cas d'accident, on n'est pas couvert, quoi. 5 lignes, ça devrait aller. Je suis pas sûr, Chouga. C'est quoi? Je vais le grossir un peu quand même. Voilà. Parce que comme je viens de là, moi, voilà. Ça devrait aller là. On y va? C'est parti. 3, 4. On commence par le sommaire. On va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast audio. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Et oui, nous sommes ici en direct sur Twitch le samedi 14 mars 2026. Normalement, le samedi, c'est la revue de presse des bonnes nouvelles. Mais bon, il y a trop d'actu là. Entre les municipales, l'Iran, la mort d'un soldat français, hélas, dans le Kurdistan irakien, je me suis dit, bah non, il faut qu'on aille sur les infos. Donc, bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin en live sur Twitch. Bonjour à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube. Merci à ceux qui nous écoutent en replay en podcast audio. Sur toutes les plateformes de podcast, vous êtes très nombreux à nous écouter désormais uniquement sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Et un grand merci pour ça. On va commencer par le sommaire, c'est-à-dire que je vais vous donner l'essentiel de l'actu pour qu'en quelques minutes, vous sachiez à la fois ce qu'il y a dans l'info depuis ces dernières heures et ce dont on va parler ce samedi matin ici sur Twitch. D'abord, on va revenir parce que c'est important et c'est une façon de lui rendre hommage sur la mort de ce soldat français, hein, dans cette guerre au Moyen-Orient, parce que oui, ça s'est passé en Irak, hein, dans le Kurdistan irakien, mais on sait que c'est en lien avec ce qui se passe en Iran. Et je voulais que, comme hier, on rende à nouveau hommage à ce soldat, ce militaire, cet homme qui a payé de sa vie la défense des intérêts de notre pays. Voilà. Mort en mission, l'adjudant-chef Arnaud Frion, 43 ans le mois prochain, est décédé après une attaque de drone en Irak. Donc c'était bien un drone Shahed, comme quelqu'un le pensait hier. Et six de ses camarades ont été blessés. J'ai lu ce matin quelque part, on vérifiera l'info, que c'est la première fois, ce serait la première fois qu'un soldat français en opération est tué par un drone. Hein, les drones qui ont, disent certains, révolutionné les guerres modernes, avec notamment ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, décédé après une attaque de drone en Irak, six autres de ses camarades ont été blessés. Emmanuel Macron a dénoncé un acte inacceptable, mais a balayé l'idée d'une riposte dans l'immédiat. Donc, on prendra le temps de se pencher sur la mort de ce soldat et sur les questions que cette mort soulève. Voilà. On le fera avec Le Parisien, vous l'avez vu. Ensuite, on ira dans ce que maintenant les médias appellent la guerre au Moyen-Orient, avec le dossier du Monde. Gros dossier dans la dernière édition du Monde qui nous parle non pas d'une guerre courte comme annoncée par le président Trump, mais au contraire de ce qui ressemble de plus en plus à l'engrenage d'une guerre longue. Le F que vous voyez dans le chat, c'est la touche F pressée dans le jeu Call of Duty et qui est pressée quand on veut rendre hommage à un combattant qui est tombé au combat. Voilà, c'est une petite rêve de gamer pour rendre hommage à quelqu'un qui est tombé au combat, et ici à ce soldat français. Point d'exclamation F, et vous avez l'info dans le chat. Le Monde qui écrit: 15 jours de bombardement israélo-américain sur l'Iran et le Hezbollah libanais n'ont pas mis fin aux ripostes sur Israël et les pays du Golfe. Les États-Unis semblent ne pas avoir anticipé les représailles contre les pays de la région, ce qui est quand même dommage, la fermeture du détroit d'Ormuz et la résistance de Téhéran. Un soldat français a été tué, 5 autres blessé dans la région d'Erbil en Irak lors d'une frappe de drone revendiquée par un groupe armé pro-iranien, un groupe irakien, mais pro-iranien, hein, pour ceux qui suivent. Après 2 semaines de conflit, le risque de manquer de munitions, notamment d'intercepteurs, inquiète les états-majors israéliens et américains. Les volte-face de Trump sur le prix du pétrole alimentent les craintes sur l'inflation aux États-Unis. Dossier dans le Monde, c'est surtout une page ici, une page et demie, qui résume assez bien, je trouve, là où on en est aujourd'hui. Est-ce que le conflit va se poursuivre? Va-t-il durer ou pas? Je n'ai pas la réponse. Mais on a des éléments pour nourrir votre réflexion sur le sujet. Et puis, bah vous le voyez, j'ai un gros dossier municipal. Alors, c'est qu'une ligne dans mon sommaire. Mais comme La Croix l'a fait hier, bah c'est Libération ce matin qui propose à ses électeurs un énorme dossier. Alors, décidément, énorme en ce moment, c'est vraiment le mot sur cette chaîne. Le Grand Est municipal. Alors Libé, c'est un journal qui aime bien les jeux de mots. J'avais pas compris tout de suite celui de la page 2. La politique plongée dans le. Alors moi, je lis le bain-marie, parce que parfois on lit vite. Je lui dis, bah, elle est où la blague? Et en fait, c'est le bain-mairie. Libé. La politique plongée dans le bain-mairie. Ok, bande de petits plaisantins. Bon, elle est plutôt pas mal. Mais surtout, voilà, c'est un gros article sur l'enjeu des municipales. Un coup de projecteur sur. Ensuite, vous allez voir le RN, les enjeux pour le RN, les enjeux pour le Parti socialiste, les enjeux pour LFI, les enjeux pour les écologistes, les enjeux pour la droite et le centre, c'est-à-dire les Républicains, Renaissance et Horizon. Bon, ça, c'est du boulot. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment un gros dossier. Et on prend le temps, c'est beaucoup d'infos là-dessus. Et puis après, c'est pas tout. Toujours dans Libé, vous avez des coups de projecteur sur plein de villes, et notamment parmi les plus grosses, un coup de projecteur sur Paris, un coup de projecteur sur Marseille, qui pourrait passer du côté RN, et un coup de projecteur sur Lyon avec la fameuse candidature de Jean-Michel Aulas. Oui, le gars Luron-Sourd, il faut que je remette les. On va bosser avec la commu pour remettre un plugin. De sous-titres pour les malentendants, meilleur que celui qu'on avait mis, qui était complètement pourri, là, qui racontait n'importe quoi. Hein. Donc avec Sugar, on est sur le coup. On va mettre un bon plugin de sous-titres pour les malentendants, mais on va essayer de le faire ce week-end. Sugar, je vais essayer de le faire ce week-end. Si tu veux m'envoyer des infos, je prends. Et merci déjà. Et on finira par. Donc là, c'est un édito du Monde sur le sujet, sur un joli article sur les musées. Voilà. D'Emmanuel Coscia, on ira voir qui est Emmanuel Coscia, qui est plutôt Emanuele Coscia, vu l'orthographe, peut-être quelqu'un qui a des origines italiennes. Je ne sais pas si c'est un journaliste ou si c'est quelqu'un qui intervient de l'extérieur dans l'IB, mais c'est un très bel article sur les musées. Sur les musées. C'est le remède le plus efficace contre. Alors, fréquenter les musées, c'est le titre. C'est toucher au sublime de l'humain. Je trouve ça très très beau, moi. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de visites de musées ici, mais ça va vous parler. Fréquenter les musées. C'est toucher au sublime de l'humain. Et ce monsieur, on ira voir qui c'est, qui nous parle, toujours se demander qui nous parle, toujours identifier la personne qui nous parle. C'est le remède le plus efficace, écrit-il, contre toute fermeture identitaire ou nationaliste. On ne peut pas raconter l'histoire d'une civilisation sans parler des autres, parce que les cultures se sont toujours mélangées les unes avec les autres. Quelqu'un me dit, Rayou, on parle de toi. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que l'amoureux des musées, chez nous, c'est Rayou. C'est vrai, c'est très juste. Bien vu. Pas mal, hein? Donc on finira sur une note un peu sympa et positive du culture. Vous en pensez quoi de ce petit sommaire? Il est pas beau mon sommaire? Est-ce qu'il est beau? Bah, le problème c'est que c'est long, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est. On va en parler pendant 2-3 heures de tout ça. Alors c'est sûr que c'est pas 3 lignes sur les réseaux d'indignation sur je sais pas quel sujet de gens qui n'ont pas bossé sur l'actu. Le problème c'est que pour comprendre l'actu, il faut y passer du temps. C'est long et c'est lent, mais c'est important. Ah, le gars Luron-Sourd nous dit à propos du plugin pour les malentendants, le meilleur plugin, Sam, c'est OBS. 2 minutes d'installation tout compris. J'ai donné celui-ci à des personnes de Twitter, tout est fluide. Est-ce que le gars Luron-Sourd, tu peux rentrer en contact avec Sugar Frog, le modo qui est juste au-dessus de toi dans ton dernier commentaire? C'est Sugar qui va m'aider. C'est Sugar qui va m'aider à installer ce plugin. Donc je sais qu'il a déjà. Voilà. Et Sugar me dit, c'est celui que tu vas inquiéter, Sam, t'inquiète. Donc, que tu vas installer. Donc, tout va bien. Voilà. Merci, Jeannot2heures, pour la force que tu donnes à la chaîne avec ce follow. N'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation debunk dans le chat pour avoir de vraies infos plutôt qu'à être informé auprès de Poubelle sur X. Ok, on y go? En plus, Sugar est mon domaine, puisque comme il a failli fermer la chaîne. Pardon, causer la fermeture de la chaîne, je plaisante. Mon Sugar, il m'en doit une. Je plaisante.
Oui, Samuel, oui, c'est moi. Oui, je voulais dire que t'avais pas coupé ton live. Ok, je me lève alors. Ah non, barre la boulette. C'est parti, vous êtes prêts pour la revue de presse?
Merci, mon Sugar. En vrai, l'histoire est drôle. On va en parler d'Arnaud Frion, ouais, bien sûr. Let's go. C'est parti. C'est parti. J'attends votre go, moi, les gars. Je ne démarre pas si vous me donnez pas un go. Ah non, 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 ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous êtes chaud? Ah, merci. C'est merci, c'est parti. Let's go. Allez. Donc, d'abord, je voulais qu'on démarre par ça. Je voulais qu'on, à notre manière, on rende un hommage à ce monsieur, à cet homme, à ce soldat, à ce militaire français. On en a parlé déjà hier. On a débuté, je crois, la revue de presse de vendredi matin par cette actu. Je voudrais qu'on y revienne. On n'a pas beaucoup plus d'infos. Je ne vais pas vous apprendre beaucoup plus d'infos qu'hier. Mais ce n'est pas grave. C'est une façon de continuer à honorer la mémoire de cet homme. Guerre au Moyen-Orient, mort en mission. C'est lui que vous voyez ici. L'adjudant-chef Arnaud Frion, 43 ans le mois prochain, qui je crois était père de famille, est décédé après une attaque de drone en Irak. Et 6 autres de ses camarades ont été blessés. Emmanuel Macron a dénoncé un acte inacceptable mais a balayé l'histoire d'une riposte dans l'immédiat. Voilà. Il y a un édito qu'on va commencer par lire, ici de Tanguy de l'Espinet, du Parisien, et on va lire ensuite cet article. Allons-y. Tanguy de l'Espinet. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez enlever la guerre « Je n'ai pas fini de vivre » à cette question d'une ado qui l'apostrophait sur Instagram il y a une semaine, Emmanuel Macron avait fait cette réponse, Fatima. Vous n'allez pas faire la guerre du tout, vous allez continuer de vivre, d'apprendre, de sortir, de vivre librement et de construire votre avenir dans notre beau pays. Vous, en réalité, c'est nous tous, écrit le journal, à l'exception de certains, dont Arnaud Frion. La mort jeudi de ce chasseur alpin français en Irak vient nous rappeler que nos existences en paix sont préservées d'un monde qui l'est de moins en moins parce que certains s'engagent au péril de leur vie à être nos sentinelles. L'avait-on oublié ? Le procès, je vois que certains dans le chat ont oublié que quand on est soldat, on pouvait mourir. Hein ? Très intéressant. L'avait-on oublié ? Le procès en bellicisme fait au chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, lorsqu'à l'automne dernier, il appelait la France à accepter de perdre ses enfants, le laisse penser. Vous vous rappelez cette polémique ? Car en réalité, la France n'a jamais vraiment cessé d'en perdre des enfants, des soldats. Et s'il est sain d'avoir d'autres projets que de mourir pour son pays, gardons en tête que certains se lèvent chaque jour en sachant que leur enfant, leur conjoint ou leurs parents risquent sa vie pour la France. Est-ce moins grave parce que c'est leur métier ? Pas du tout. La mort de ce soldat nous invite à ne pas oublier ce qu'est la réalité de la guerre, mais aussi à ne pas la banaliser. Ce n'est pas un jeu. De ce point de vue, la mémoire d'Arnaud Frion est bien mieux servie par le frustrant mais sobre appel au sang-froid de Paris que celle des victimes américaines ne l'est par les grotesques clips de propagande sous stéroïdes de la Maison Blanche sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là c'était un petit édito du journaliste, et maintenant on va se pencher sur la mort du soldat. Bonjour Lucie Liberté, dont c'est la première fois ici, t'as un très beau pseudo. Lisons. Je vous remercie pour les subs, je vous ai pas remercié, mais vu l'actu qu'on est en train d'évoquer, les subs, ce sera pour tout à l'heure. Un décès qui plonge l'Élysée dans l'embarras. Pourquoi ? L'adjudant-chef Arnaud Frion, chasseur alpin déployé en Irak, a été tué jeudi par un drone. Inacceptable, a dénoncé le président Macron qui s'est montré prudent. Plus de 20 ans... Pardon. Plus de 20 ans après sa première... Excusez-moi. C'est les pollens. Ça va passer. Plus de 20 ans après sa première mission opérationnelle au Tchad, il avait prévu de raccrocher son treuil à la fin de celle-ci en Irak. Je suis embêté par cette info parce que je la trouve très, très forte, très dure, et je la trouve un peu floue. Plus de 20 ans après sa première mission opérationnelle au Tchad, il avait prévu de raccrocher son treuil à la fin de celle-ci en Irak. Est-ce que le Parisien est en train de nous dire que ce soldat allait mettre fin à sa carrière militaire juste après cette opération ? Ou est-ce qu'il avait peut-être décidé de ne plus faire de mission opérationnelle et d'aller sur le front ? Mais si c'est le cas, enfin c'est quand même... c'est d'une tristesse infinie, quoi. C'est-à-dire que nos Parisiens semblent nous dire que ce soldat était sur le point de raccrocher, quoi. Alors, dernière OP selon France Info. Bon, d'accord, je comprends. Engagé en Afghanistan, puis au Mali, puis au Niger, l'adjudant-chef Arnaud Frion, membre émérite du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars-en-Isère, devait rentrer en mai. Retrouver sa compagne et son fils de 6 ans, qui habitent dans une ville voisine, mais aussi ses parents, et son frère aîné à Roy, dans la Somme, où il a grandi. Ce jeudi à 22h40, un drone de fabrication iranienne, Shahed, donc quelqu'un dans le chat me posait la question, est-ce qu'on sait quel drone a été utilisé? Alors ça paraît anecdotique, mais c'est important, puisque ce drone Shahed, qui est utilisé notamment par les pays du Golfe, actuellement par l'Iran, c'est aussi ce drone utilisé par l'armée de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens, modifié, c'est-à-dire que ce drone Shahed a été modifié et amélioré par l'armée russe, mais c'est ce drone-là, et qui est un drone qui cause énormément de dégâts. Un drone de fabrication iranienne Shahed, dont l'origine reste non identifiée à ce stade, qui a tiré ce drone? Aujourd'hui, il n'y a pas que les Iraniens qui ont des drones Shahed. Selon l'état-major des armées, il a frappé sur la base kurde de Malakara, où il s'était replié avec ses camarades afin de se soustraire à une menace croissante. Blessé, comme six de ses frères d'armes pour lesquels les opérations de rapatriement sont en cours, il a succombé dans la soirée. Il allait avoir 43 ans le mois prochain. Ce n'est plus seulement une guerre sur écran, elle est désormais charnellement incarnée, a regretté Jean-Louis Thiérault, l'éphémère ministre délégué aux armées dans le gouvernement Barnier. C'est le premier soldat français tué depuis le début de cette guerre en Iran. C'est le premier soldat français, affirme Le Parisien, à être fauché en opération par un drone. Je vous disais que l'éruption des drones dans les conflits armés est, d'après certains experts, jugée comme révolutionnaire. J'ai le sentiment qu'on est à poil concernant la lutte contre ces engins. S'insurge un parlementaire. On a un seul régiment d'artillerie solaire. Cela fait des années qu'on alerte sur le danger que représentent ces armes. Certains auraient tiré donc la sonnette d'alarme. On a renforcé nos moyens aux Émirats, en Jordanie, mais qu'en était-il en Irak? Ce trou capacitaire nous rend vulnérables. Priorité revendiquée et encore rappelée ce vendredi par Macron, la sécurité de nos ressortissants et de nos intérêts se révèle bien fragile, écrit Le Parisien. Car les répliques de l'offensive israélo-américaine en Iran, après 2 semaines de frappes aériennes intenses, se font sentir, vous le savez, dans l'ensemble de la région. Les proxys, donc les proxys sont les soutiens de Téhéran, ces milices armées qui agissent en lien avec le régime des Mollahs, menacent désormais la France. Sans revendiquer l'attaque perpétrée jeudi soir. Parce que si on va trop vite en besogne, et hier on avait eu ce sentiment, on avait l'impression que cette attaque contre l'armée française a été revendiquée. Et aujourd'hui, Le Parisien, ce samedi matin, nous dit que non. Sans revendiquer l'attaque perpétrée jeudi soir, pour laquelle une enquête technique est en cours, le groupe irakien Achab al-Kaf, qui est un groupe irakien pro-iranien, a annoncé ce vendredi cibler tous les intérêts français en Irak et dans la région. Abyss me demande dans le chat à l'instant pourquoi la France est encore en Irak en 2026, selon l'armée française, pour lutter contre le terrorisme, contre l'État islamique, contre Daesh. Et déclaré agir en représailles au déploiement du porte-avions Charles de Gaulle arrivé en Méditerranée orientale lundi. Escorté par des frégates françaises, mais aussi espagnoles, italiennes, néerlandaises, le Charles de Gaulle patrouille dans une posture strictement défensive. Il y a quelques jours, on a lu beaucoup d'articles qui s'interrogeaient sur cette position de la France. Hein ? Quelle est la position de la France dans ce conflit ? La France ne participe pas aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran, mais a envoyé des forces dans la région pour défendre à la fois les intérêts français, voilà, les Français vivant dans la région et les accords de défense avec certains pays du Golfe. Merci Sugar, c'est pas une grosse perte, je viens de voir l'historique à l'instant. Donc, posture strictement défensive. Mais, pardon, je reviens à mon propos, mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a beaucoup d'articles qui s'interrogent en disant « Ok, posture strictement défensive, on a bien compris. » Mais est-ce que, vous vous rappelez de cette question qu'on s'est posée il y a plusieurs jours, comment vont comprendre l'Iran et les alliés de l'Iran, notamment les proxys, les groupes armés, dans la région? Comment eux vont-ils prendre ce déploiement militaire de la France? Vont-ils le comprendre comme nous venons de l'indiquer? Ou comme, quelque part, une forme de déclaration de guerre? La mort de ce soldat français est un début de réponse à cette question que nous nous posions il y a quelques jours avant sa mort. Je pense que vous vous rappelez de cet échange que nous avons eu. Hein. S'il a dénoncé une attaque inacceptable, Emmanuel Macron s'est surtout montré prudent. Je n'élaborais aucune forme de scénario, me garde bien de faire de la poétique fiction, balayant toute idée de riposte. D'autant qu'a priori, il y a une enquête qui est en cours et on voudrait être sûr d'identifier le groupe ou le pays qui a frappé l'armée française. Hein. Donc avant de taper, il faut être sûr de savoir qui a envoyé ce drone. Balayant toute idée de riposte avant un entretien avec le Premier ministre irakien. Attitude saluée par le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, qui est un élu modem. Il ne faut pas rentrer dans le conflit, il ne faut pas répondre aux attaques qui visent à l'embrasement de la région. Et pourtant, Paris, question du Parisien, peut-il ne pas riposter ? Le pire, ce serait de faire comme les Italiens ciblés ces derniers jours, en se retirant de la zone parce qu'elle est trop dangereuse. Cela renverrait un message de faiblesse, analyse Jean-Louis Thiérot, député LR de la Seine-et-Marne. Même si la ligne est ténue, il faut garder notre position d'équilibre et adopter une riposte proportionnée. Voilà. Je vous lis sur ce sujet. Et après, on va sur un dossier du Monde sur là où on est ce conflit. Je vous lis, je prends un petit peu de temps. Pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, hein, je vous embrasse. Quand je me tais comme ça, c'est que je lis un peu les coms. Parce que c'est le principe de Twitch pour échanger. Je ne veux pas tous vous lire oralement, mais je prends connaissance de vos messages. Je lis les fax. Oui, je lis les mails. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas beaucoup plus d'infos que dans l'article que nous avons lu hier matin sur la mort de ce soldat français. C'était surtout une façon pour moi et pour nous, je crois, de rendre hommage à cet adjudant-chef Arnaud Frion. Voilà. Maintenant, Le Monde... avec un article qui est assez dense, qui n'est pas très long, mais qui essaie de nous, qui nous propose de nous résumer un petit peu la situation sur cette guerre au Moyen-Orient. Et qui estime que les deux pays qui ont attaqué l'Iran, Israël et les États-Unis, sont pris au piège actuellement d'un conflit asymétrique. 15 jours de bombardements massifs israélo-américain ou américano-israélien, comme vous voulez, qui ont provoqué de lourdes pertes pour le régime iranien et le Hezbollah libanais, ça on le sait, n'ont pas mis fin aux ripostes Israël et sur les pays du Golfe, laissant entrevoir une guerre longue. Alors que, vous savez qu'il y a quelques jours, le président Trump a promis que la guerre serait courte. Lisons ce papier dans la dernière édition du Monde. Enfin, je vous en lis l'essentiel, je ne vous lis pas tout comme d'habitude. Donc, le début, ça parle du Hezbollah. Et de ses tirs vers Israël. La preuve que même si le Hezbollah est affaibli, il n'est pas supprimé. Ouais, je vous le lis quand même, parce que parfois j'hésite à vous lire des infos parce que je ne veux pas être trop long, mais je pense que c'est quand même nécessaire à la compréhension de ce qui se passe. Donc lisons ce début sur le Hezbollah. La soirée et la nuit de mercredi 11 au jeudi 12 ont été particulièrement éprouvants pour les habitants du nord d'Israël. Le Hezbollah a lancé plus de 200 roquettes. C'est pas mal pour un mouvement que certains estimaient totalement supprimé. Le Hezbollah a lancé plus de 200 roquettes en quelques heures sur la Galilée et la région d'Haïfa. Alors que depuis le début de cette nouvelle confrontation, le 1er mars, les tirs de la milice chiite libanaise en direction de l'État hébreu plafonnaient à une centaine par jour. Ce faisant, le Hezbollah a renoué avec la puissance de feu dont il avait fait preuve durant la précédente guerre l'opposant à Israël, à l'automne 2024, ce dont l'armée israélienne ne l'espérait pourtant plus capable. Les dégâts causés par ces roquettes, interceptées en grande partie par la défense antiaérienne israélienne, ont été limités, quelques blessés signalés seulement, mais l'impact psychologique de ces attaques est important, d'autant qu'au cours de la même soirée, l'Iran a envoyé 3 vagues de missiles dans la même direction, dans une démonstration ostentatoire de coordination avec son allié libanais. Le Hezbollah, hein, toujours pro-libanais. Les rumeurs sur la mort du Hezbollah étaient exagérées, écrit Amos Harel, qui est un analyste militaire. L'organisation, certes, est plus faible qu'il y a 2 ans, mais elle est toujours bien vivante. Quelques heures plus tard, une présentatrice lisait à la télé iranienne le premier discours, et là on parle de l'Iran maintenant, du nouveau guide suprême, Mortaba Ramenei, le fils du dernier guide de la République islamique. L'absence de ce dernier à l'écran, donc on l'entend, mais... Non, on ne l'entend pas d'ailleurs, c'est un discours qui est lu. Donc on ne le voit pas, lui. Intéressant. L'absence de ce dernier à l'écran, alors qu'il était censé intervenir en personne, a immédiatement relancé les spéculations sur son état de santé, puisque a priori, il a été blessé dans les frappes qui ont tué son père, sa mère, son épouse, je crois aussi, enfin plusieurs membres de sa famille. Et lui aurait été blessé aussi. Et donc, spéculation relancée sur son état de santé, certains Iraniens se demandant même s'il était toujours en vie. L'homme aurait été blessé au cours du bombardement inaugural de la guerre le 28 février qui a été fatal à son père Ali Ramenei. Mortaba Ramenei, donc le fils, a rejoint en tout point la stratégie militaire suivie par les gardiens de la Révolution, corps d'élite et socle idéologique du régime iranien. Le guide a appelé à poursuivre le bouclage du détroit d'Ormuz, levier de pression économique majeur aux mains de Téhéran qui a fait bondir, vous le savez, les cours du baril de pétrole autour de la barre des 100 dollars. Je ne sais pas combien on est actuellement. 6 navires ont été attaqués depuis mercredi, donc aux alentours du détroit d'Ormuz, pour un total de 16 depuis le début du conflit. On a déjà beaucoup parlé de ça ici, du détroit d'Ormuz. Vous savez qu'il y a 103, on est à 103 dollars. Il y a les menaces réelles, les navires frappés, il y a les menaces invisibles, les mines. Il y a aussi le niveau stratosphérique des primes d'assurance que doivent payer du coup les navires qui veulent emprunter le détroit d'Ormuz. Et du coup, il y a beaucoup de navires qui refusent d'emprunter ce détroit pour des raisons de sécurité et pour des raisons de primes d'assurance impossibles à payer. Voilà, c'est comme ça que le commerce du pétrole mondial en prend un coup et que le cours du baril qu'on vient d'évoquer et du coup les prix à la pompe pour ceux qui ont fait des pleins d'essence ces derniers jours sont en forte hausse. Le guide, donc le nouveau guide islamique de la révolution islamique, a aussi sommé les monarchies arabes du Golfe de fermer les bases américaines qu'elles abritent. Oui, Lucie Liberté a raison. Hein. L'asymétrie, c'est la faiblesse des moyens d'un côté et la force de l'autre. Hein, entre du côté le régime iranien, qui est évidemment beaucoup plus faible militairement, même avec ses proxys par rapport à Israël et les États-Unis, et Lucie Liberté, qui nous a rejoint tout à l'heure, nous dit que l'asymétrie n'est pas signe de victoire pour le plus fort. Afghanistan, Ukraine, Syrie, on voit souvent, nous dis-tu, l'apparition de proxys, de terroristes de résistance, selon où on se situe. Un régime théocratique a tout à gagner en ayant des martyrs. Merci Liberté pour ton message. Donc le guide, oui, Vietnam aussi, vous avez raison. Le guide a aussi sommé les monarchies arabes du Golfe de fermer les bases américaines qu'elles abritent. Si celles-ci laissent les États-Unis utiliser des bases militaires situées sur leur territoire, alors l'Iran sera contraint de poursuivre les frappes, a-t-il prévenu. D'ailleurs, plusieurs explosions ont encore secoué la région du Golfe jeudi, sur le site d'un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn, d'un immense champ pétrolier en Arabie Saoudite, ou encore d'un aéroport au Koweït et d'un port à Oman. Intéressant, l'héritier d'Ali Ramenei, donc Mortaba Ramenei, a enfin exprimé ses sincères remerciements dans ce discours lu à la télé aux membres de l'axe de la résistance qui, du Hezbollah libanais à certaines milices chiites irakiennes, sont loin d'avoir hissé le drapeau blanc. Ces dernières pilonnent à coups de drone les bases en Irak de plusieurs groupes armés kurdes irakiens tentés au premier jour de la guerre de pénétrer en Iran avant de se raviser, du moins pour l'instant. C'est peut-être dans ce cadre-là, enfin c'est quasiment même sûrement dans ce cadre-là, que le soldat français a trouvé la mort d'ailleurs. C'est ainsi, grâce à l'arme du pétrole et à une tactique de harcèlement de leurs ennemis, que l'Iran et ses proxys ont réussi, en 2 semaines d'affrontement, à compenser une partie de leur immense infériorité militaire vis-à-vis d'Israël et des États-Unis, en jouant à fond la carte de la guerre asymétrique, dont notre ami nous parlait tout à l'heure dans le chat, celle où il suffit aux plus faibles de survivre pour ne pas perdre, et en agitant l'épouvantail de la guerre économique aux conséquences de la guerre longue aux conséquences économiques cataclysmiques, que la République islamique et le Hezbollah espèrent rétablir un peu de leur capacité de dissuasion. Si, dans les prochaines heures ou les prochains jours, le président Trump, sous la pression de l'opinion publique américaine, sous la pression des entreprises américaines, sous la pression des marchés boursiers du monde entier, sous la pression peut-être de son propre camp à l'approche des élections de mi-mandat de mid-term, annonce la fin des frappes américaines, eh bien quelque part, la tactique de l'Iran et de ses soutiens aura fonctionné. Et le régime actuel iranien pourra continuer à vivre sa meilleure vie. Si vous pouvez faire monter les prix du pétrole, déstabiliser les marchés du gaz naturel liquéfié, inquiéter les assureurs, perturber le transport aérien, à se demander si le Golfe reste un environnement opérationnel prévisible, alors vous déplacez la guerre sur un terrain où l'acteur militaire le plus fort est beaucoup moins à l'aise, analyse Andreas Krieg, spécialiste des questions de défense. L'Iran n'a pas besoin de gagner cette guerre de manière conventionnelle s'il peut rendre le coût régional et mondial de la guerre insupportable. C'est ce que je viens de vous dire, mais en des termes beaucoup plus choisis. Cette guerre met en évidence, vous voyez, ce papier il est un peu sec, mais il est quand même passionnant, je trouve qu'il nous explique tout très bien. Cette guerre met en évidence le fossé qui existe entre dégradation tactique et défaite stratégique. Certes, l'Iran et le Hezbollah ont subi des dommages, mais ils sont conçus pour absorber les coups et continuer à se battre. C'est pour cela qu'on se dirige vers un conflit prolongé. Et pourtant, le président Trump a dit que cette guerre allait se terminer bientôt. Alors, est-ce que cette guerre va se terminer bientôt parce que les États-Unis vont atteindre leur but de guerre, sauf que les buts de guerre sont assez flous côté américain? Ou est-ce que cette guerre va s'arrêter parce que Trump va se retirer? Taco. Trump, always chicken out, comme disent les marchés financiers américains. Trump finit toujours par se débiner. La guerre est donc en train de se transformer en une épreuve d'endurance, de souffrance économique et de légitimité politique où chaque camp tente de forcer l'autre à accepter le premier une paix insatisfaisante. Là, ça revient un petit peu en arrière sur les premières frappes. Mais tout ce qui suit, c'est des éléments très intéressants. Donc, on s'est déjà dit sur l'échec en fait, de ce qui devait être, ce qui pourrait être la stratégie de Trump, puisqu'on en est, on en est à des suppositions, parce qu'on n'est pas dans la tête du président américain, que les frappes allaient tellement déstabiliser le régime islamique qu'il allait peut-être chuter, ou alors voir succéder à Ali Khamenei une direction du pays beaucoup plus conciliante vis-à-vis des États-Unis, et c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Alors tout ça est très intéressant et je vous invite à lire dans Le Monde page 2, mais c'est des choses qu'on s'est déjà dit dans les revues de presse précédentes. Ça parle des Shahed aussi, ça parle des drones. Mais ça aussi, on en a beaucoup parlé déjà. Ça parle du Hezbollah, mais ça, on en a déjà parlé. Voilà, je veux pas être redondant, en fait. Hein. Moi, je trouve que, voilà, cet article à plusieurs mains, hein, signé Luc Bronner, Hélène Saillon, Benjamin Barthes, Ghazal Golshiri et Majid Zerouki, il faut du monde hein, pour faire un bon papier. Je trouve dans ces premières colonnes nous résume assez bien là où on en est avec cette explication d'un conflit asymétrique qui comme d'autres conflits asymétriques pourrait finalement tourner peut-être pas à l'avantage du plus puissant. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec les municipales. Non, avec les municipales ou l'édito du Monde? Non, les municipales, c'est bien ça. Je vous lis. De l'âme. J'ai pas suivi la première actu. Est-ce que la France va répondre à la mort de son soldat? Très bonne question. On n'a pas d'infos là-dessus encore. D'abord, une enquête est en cours pour identifier vraiment, pour savoir qui a frappé, qui nous a frappé. Après, on sait que c'est un drone Shahed, mais des drones Shahed, ça peut être lancé par l'Iran, ça peut être lancé par des groupes irakiens pro-iraniens, ça peut être une manipulation aussi. Enfin, on ne sait pas. Donc, d'abord, il y a une enquête qui est en cours. Et après, est-ce qu'il y aura une réponse directe de la France? Le risque, évidemment, c'est de mettre le doigt dans un engrenage qui nous emmène encore plus loin, quoi. Ça, je n'ai pas la réponse à ta question, mais c'est une très bonne question. Qu'en dit le peuple iranien? Dit Kozabrakadabra, encore une très bonne question. Il y a un passage dans ce long article qui le dit, mais je ne vous l'ai pas lu. Il est possible que Trump ait parié sur un soulèvement du peuple iranien contre le régime pour le faire tomber. Le problème, c'est comment tu descends dans la rue quand, un, pour manifester donc, les bombes américaines et israéliennes tombent tous les jours. Comment tu manifestes sous les bombes? Deux, quand le régime est toujours en place, frappé mais toujours puissant, et que les forces sécuritaires iraniennes sont prêtes à descendre dans la rue, elles aussi, pour aller arrêter, slash plutôt tuer, hein, parce que c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, les manifestants. Comment tu descends dans la rue pour manifester dans ces conditions? Donc, voilà. Quand dit le peuple iranien, bah, le peuple iranien, il reste chez lui, là. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. QB17, t'as complètement raison. Ouais. Position défensive avec le fleuron de la flotte, fleuron FLEU, Dreaming Cat Boy. Autoriser l'utilisation des bases françaises par les États-Unis et Israël, c'est prendre parti. À ma connaissance, mais il faut qu'on vérifie cette info, je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que la France n'a pas autorisé l'utilisation des bases françaises par les avions américains et israéliens pour frapper. Pour le coup, ça, c'est nous rendre partenaires et alliés. Je crois que cette information est fausse, Dreaming Cat Boy. Alors, le porte-avions Charles de Gaulle, oui, il est assez gros, je pense que c'est dur de le rater. Mais je ne suis pas sûr que les avions israéliens et américains utilisent les bases françaises comme tu viens de le dire. J'ai lu l'inverse. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Pour les ravitailleurs. Donc vous me précisez que les avions de combat, non, mais pour les ravitailleurs, les avions de soutien. D'accord. Dans ce cas-là, ce qui est une forme de soutien, vous avez raison. Un cœur de myope me dit pas pour frapper, mais pour ravitailler avant de frapper, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Ah, alors précision d'Actarus 56, ils utilisent la base d'Istres pour leurs avions ravitailleurs, mais qui ne sont pas censés avoir été engagés dans le conflit. Les bases militaires sont utilisées uniquement pour défendre les pays voisins qui sont attaqués. Les Américains ont interdiction d'utiliser les bases françaises pour attaquer l'Iran. Ok. Bon, bah ça se précise. Merci beaucoup pour les infos. Vous êtes très fort quand même. Vous êtes très fort. Salut Bière, pour Dieu, tu vas bien? Bon, voilà, évidemment, nous allons revenir sur ce conflit dans la prochaine revue de presse. Peut-être dès demain, parce que je trouve que l'actu est tellement riche, dense en ce moment que, voilà, normalement, le samedi, je ne fais pas de revue de presse classique. Mais je voulais vous la proposer quand même. Il y a un monde où demain matin, s'il y a des nouvelles infos vraiment importantes, je vous refais une revue de presse qui nous parle notamment de l'Iran, quoi. Il se passe trop de choses tous les jours, quoi. En attendant, je vous propose de passer au municipal, voilà, avec une grosse page municipale, grâce notamment à Libération, ce samedi matin. Hier, c'était La Croix qui nous proposait un dossier vraiment important sur ces élections qui arrivent, là, premier tour demain. Mais là, on va se pencher sur Libération. Est-ce qu'on peut parler de Troisième Guerre mondiale? Une guerre mondiale, c'est une guerre où une grande partie des pays, pour rester très factuel, Vourmbulette, une grosse partie des pays de la planète sont engagés dans le conflit, notamment par un système de réseau d'alliés. Aujourd'hui, non. Je n'ai remercié aucun sub depuis ce matin. Vu les sujets que nous abordons, c'est compliqué de le faire, mais je fais une petite pause. Alors je dis un grand merci à Clairette de Die pour ce 55e mois d'anniversaire de soutien. 55 mois de soutien consécutif. Voros Dénier, comment vas-tu? 45 mois. Juroscoff, 50 mois. Waouh. Coco Bébé, 32 mois. Merci beaucoup. Neros, merci pour ton prime. Valka pour ton prime. Turin Tarambar pour ton 39e mois consécutif. C'est où? Libs pour ton prime. Mada Ekra pour ton prime. Yves du 13 pour ton 55e mois. Merci Loge, Ludoc Hudson. Merci beaucoup. Et notre ami, ça fait longtemps que j'avais pas eu ton pseudo. C'est parti. Notre ami SDFLJSGRLJFSLK pour les 10 amendements que tu viens d'offrir à la commu. Merci à toi. On passe au municipal ? On passe au municipal. Alors, merci Libé, et pas merci Libé. Merci Libé parce que le dossier est très complet, comme le dossier de La Croix était complet hier, mais pas merci parce qu'il va être très long à lire, mais en même temps, c'est la grosse actu de ce week-end, et c'est assez passionnant parce que ça nous parle de politique, ça nous parle de citoyenneté, ça nous parle de l'état de notre pays, ça nous parle d'élections locales, mais ça nous parle aussi d'élections nationales, parce qu'il ne nous a pas échappé que nous sommes à un an de la présidentielle, et que nous savons que ces municipales, les résultats municipaux vont avoir un impact sur la vie politique de notre pays et quelque part sur la présidentielle qui arrive. Normalement, point d'exclamation festival, Loulou. T'as toutes les infos, tu devrais trouver toutes les infos pour t'inscrire aux différentes conférences et ateliers de coaching. Normalement, hein. Je pense. Hein. Et si ça n'est pas le cas, c'est que si tu ne trouves pas les infos sur ce site, c'est qu'elles ne sont pas encore publiques. Mais ça veut dire qu'elles arriveront bientôt. Ok ? Donc, une de Libération à un an de la présidentielle. Parce que bon, le 11 avril, on fait un grand festival MVP. Un grand festival MVP, dont mon émission sur le monde du travail et l'orientation, l'insertion, tout ça. Et on fait un festival IRL. C'est mieux qu'un salon. Il y a des stands, il y a des scènes, il y a des spectacles, il y a de l'humour, il y a du mentalisme. Il y a des professionnels qui viennent de vous parler de leur métier. Il y a des ateliers pour se mettre en situation. Il y a, c'est pas un truc où tu vas prendre des flyers d'école et de formation. C'est vraiment un truc, ça va parler taf, boulot. Et ça n'est pas le festival de Pascal Pro. C'est le festival Ma Vie Pro.
Et oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
T'as rien à voir. Alors, les municipales, le grand test municipal titre Libé ce matin. La campagne du scrutin de dimanche se déroule dans un climat de tension inédit. Quelles sont ces tensions? On va l'évoquer. Transposant au niveau local les batailles nationales, tour d'horizon des enjeux pour les partis et les villes les plus disputées. Alors, il y a un édito de Paul Quignot. Ouais, qui est intéressant qu'on peut lire. Enjeux. Alors peut-être c'est un article qui résume un petit peu les enjeux. C'est la règle des municipales, elle croise enjeux strictement locaux et impacts possiblement nationaux. Dans le contexte de tensions mondiales et avec une présidentielle dans toutes les têtes, ce cru 2026 revêt une importance particulière. Son issue pèsera lourd sur le paysage politique qui accompagne le macronisme finissant. Le premier enjeu, démocratique. La démocratie en France ne se porte pas bien. Les Français sont de plus en plus lassés par l'impasse dans laquelle la dissolution décidée par Emmanuel Macron a plongé le pays. Juste, dans cette situation de désamour, cette relation de défiance entre les Français et les politiques qui dure et qui s'amplifie, dans cette situation de désamour, la confiance accordée aux maires reste globalement préservée. Le taux de participation dimanche dira justement si cette gangrène démocratique se diffuse, y compris à l'échelon local. Le second enjeu, donc un démocratique, deux, local mais éminemment politique. Les électeurs vont décider de prolonger ou pas les orientations à l'œuvre dans leur commune. La question est simple. Est-ce que ma ville va mieux qu'il y a 6 ans? En vrai, c'est ça la question que vous devez vous poser quand vous allez voter. Est-ce que ma ville va mieux qu'il y a 6 ans? Et est-ce que dans les candidats, les candidates qui se présentent, je me dis que l'un d'entre eux peut rendre ma ville plus belle, plus agréable, plus dynamique, plus sûre, plus propre. Enfin, vous mettez vos critères, hein, qu'avec la mandature précédente. Dynamisme économique, transport, logement, prise en compte des enjeux environnementaux, soutien ou pas au tissu associatif, comme sur bien d'autres sujets, l'échelon local dispose de pouvoir. Ils dépendent bien sûr de la taille de la ville et de sa surface financière. Ils sont interdépendants avec les échelons départementaux, régionaux, nationaux. Blablabla, blablabla. Mais les différences. Ah si, je dis blablabla, mais c'est intéressant. Mais les différences de vision politique visibles à l'œil nu dans les grandes villes existent aussi dans les villes ou communes de moindre taille, contrairement à ce que laisse entendre un populisme ambiant démobilisateur. Alors, pardon, hein, je vais être provocateur, mais je vois beaucoup de gens qui se plaignent de n'avoir qu'une seule liste dans leur village, c'est souvent des petites communes, dans leur petite ville. Oui, c'est regrettable, hein, vous n'avez pas de choix. Hein. Mais ça montre déjà que ce statut d'élu municipal ou de maire, il n'est pas foufou. Hein, s'il était si attrayant que cela pour le pouvoir que ça donne, pour le prestige que ça donne, voire pour l'indemnité que ça donne, eh bien, si c'était si intéressant que ça de faire de la politique au niveau local, eh bien, il y aurait plus de candidats, d'une part, et d'autre part, je comprends bien que c'est triste, mais j'ai envie de vous dire, si vraiment c'est grave pour vous, présentez-vous. Et vous allez me dire, bah oui, mais j'ai pas le temps, mais oui, mais c'est pas valorisé, mais oui, ça paye pas, oui, je sais. Mais c'est le résultat de tout ça. Donc, je comprends que vous lamentiez qu'il n'y ait qu'une seule liste, mais je pense que malgré tout, il faut aller voter. Parce que si des gens ont trouvé assez de courage ou d'ambition ou de volonté pour constituer une liste, bah, c'est une façon de, quelque part, de les remercier, de leur donner, de donner de leur temps pour gérer votre ville. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, c'est une façon quand même de soutenir ça, quoi. Et si vous trouvez que c'est un scandale, ben, proposez votre liste. « 70% des communes ont une seule liste. Ouais, 68% exactement. Vente à blague. 68%, on a vérifié le chiffre tout à l'heure. Ma mère, quand on vient lui parler, c'est uniquement pour les problèmes. Bah oui, c'est son boulot. C'est normal. C'est son boulot. Merci beaucoup, j'ai perdu un pari pour ton message. Moi, c'est le cas, dit Lucas. Ouais. Voyez? Je fais partie de la seule liste de mon visage et lorsque les habitants me parlent de ça, je ne sais pas trop quoi leur répondre, à part présentez-vous aussi, mais bon. Bah, Naïrim, je ne sais pas, réponds-leur ce qu'on vient de dire. Hein. C'est-à-dire que si la soupe était si bonne, il y aurait sans doute plus de listes et de candidats. Donc s'il n'y a qu'une seule liste, c'est sans doute parce que ça ne motive pas plus que ça les habitants à donner de leur temps et de leur énergie pour présider aux destinées de leur commune, ce qui est dommage. Et que si vraiment les gens qui t'interpellent dans la rue pour te dire ça, c'est dommage, il y a une seule liste, bah, tu leur dis désolé. Mais n'hésitez pas, vous, à créer votre liste, quoi. Chitaki propose voter pour moi, bande de bâtards, ça devrait les calmer, je suis pas sûr. On enchaîne? L'importance de ces enjeux locaux n'est en rien contradictoire avec la lecture nationale qui sera faite des résultats. Si Marseille ou Nice cédaient aux sirènes de l'extrême droite, on va faire un coup de projecteur sur les enjeux dans différentes villes, ce serait des tremblements de terre à dimension nationale, écrit Libé, comme une défaite de la gauche après 25 ans de règne à Paris. Surtout, l'addition des milliers de scrutins dessinera le paysage pré-présidentiel. La question majeure la plus angoissante sera celle de la diffusion des idées d'extrême droite. De ce point de vue, ça c'est la vision de Libé, hein. De ce point de vue, attention à une lecture en trompe-l'œil, une poignée de succès, ce qui serait déjà trop, pourrait masquer une progression plus significative. Si forte poussée RN il y a, les débats à droite reprendront de plus belle entre ceux qui ont déjà vendu la moitié de leur âme et les autres. Libé nous parle ici du rapprochement droite-extrême droite. Entre la gauche et la gauche radicale, les tensions pourraient encore monter d'un cran. Le PS espère profiter de ce scrutin qui lui est souvent favorable pour poursuivre sa reconquête du leadership à gauche. amorcée avec les européennes et les législatives. Cet article, c'est un petit peu un résumé de tous les enjeux. Les écolos, eux, espèrent garder les grandes villes qu'ils dirigent, qu'ils ont conquises en 2020, mais qui sont en difficulté dans la plupart de ces villes. Côté LFI, ce rendez-vous électoral n'a jamais été au cœur de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. LFI n'a jamais tellement visé les municipales. C'est moins vrai cette fois. Mais les ambitions de conquête restent nulles ou quasi. Dépasser la barre des 10% ou pas, telle est la question pour les listes LFI. Comment pèsera la tourmente dans laquelle s'est retrouvé LFI après la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenck, où les polémiques sur l'antisémitisme de son leader? Réponse dimanche. Salut Captain Oui-Oui. Les insoumis espèrent pouvoir mettre la pression sur le reste de la gauche, mais le risque d'assumer d'éventuelles défaites sera aussi sur leurs épaules quand on vous dit que ce scrutin local pèsera lourd. Si on ne doit retenir qu'une chose de cet article, c'est ça. C'est que c'est un scrutin local, mais les conséquences nationales, elles sont gigantesques. Voilà. Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire un focus sur toutes les villes, mais on va essayer de lire un petit peu les idées générales de ça. Je réfléchis à une actu. Oui, Samuel, tu as vu l'Outsider sorti de nulle part à Nantes? Ouais, j'ai vu. Professeur d'économie, sans étiquette, mais plutôt jugé de droite, avec crédité jusqu'à 15% des intentions de vote. C'est une grosse surprise. Ah non, c'est Bordeaux, ça. Non, c'est Bordeaux, ça. Tomito, Nantes, j'ai pas le nom. Non, j'ai pas l'info. Non, je te parle de Bordeaux. À Bordeaux, il y a un candidat comme ça. À Nantes, non, j'ai pas vu. T'es sûr que tu confonds pas avec Bordeaux? Parce que c'est Bordeaux, ça, l'histoire du prof d'économie, là. Ouais. T'es sûr de Nantes? Foulque de Chombard? Foulque de Chombard. Foulque de Chombard. William Auclair, mettez-vous d'accord. Foulque de Chombard, il est crédité de combien? À Bordeaux, c'est Dessertine. Foulque Chombard de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce monsieur? Figaro. Municipal à Nantes, Foulque Chombard de l'eau, l'ex-cavalier solitaire. Ok, c'est Lucky Luke. Qui rêve de faire basculer la ville à droite. Encore inconnu du grand public qui a peu, le candidat du nom de la droite et du centre désormais reçoit le soutien de Bruno Retailleau, Gabriel Attal, donc c'est droite. Ou encore David Lisnard. Ok. Bah, il est LR, donc déjà, c'est pas un sans étiquette. C'est pas un sans étiquette. Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'était un gars qui pop de nulle part. Donc c'est déjà le représentant LR. Donc c'est pas... quelqu'un me disait, t'as vu le mec sorti de nulle part. Le mec, il est juste chez LR, quoi. D'accord. Conseil municipal inconnu du grand public, qui prend tout le monde de court, à commencer par ses propres alliés. Voilà. Il est quand même devenu le candidat officiel de la droite et du centre. D'accord. Ce qui est peut-être surprenant, c'est les sondages. Il est crédité de combien? Tu vois? Ouest France. Ouais, c'est la première fois que je vois un papier sur lui. J'avoue que j'avais pas. Nantes. Quelqu'un me dit 31% selon le premier tour? Bon, sondage contradictoire, on est habitué. Ouais, il y a deux sondages qui donnent des résultats différents. L'un qui donne donc le représentant LR victorieux au deuxième tour. Et l'autre... l'inverse, c'est-à-dire la maire Johanna Roland qui gagnerait l'élection. Ok, on verra. Ok, mais c'est des sondages assez anciens. Plutôt que faire des focus, je pense que plutôt que faire des focus sur les villes, je pourrais faire des focus sur... regardez, ce que... Ah, pardon, je vous montre. Ce que Libération fait, par exemple, comme La Croix a fait hier, n'hésitez pas à aller voir les journaux, hein, c'est dans Libé, par exemple, aujourd'hui, vous avez des focus sur les villes et sur les partis. Je pense que je vais pas le faire, en fait. On va plutôt regarder les choses dans les grandes lignes. Là, vous avez un coup de projecteur sur le RN, par exemple. Le contexte est bon pour eux, je vous résume, je vous lis ça, je vous lis les grandes lignes. À quelques jours du scrutin local, le parti à la flamme espère rafler plusieurs villes importantes. Pour l'instant, le RN ne s'est pas implanté au niveau local de façon importante, vous le savez. Voilà. Et ils espèrent bien rafler plusieurs villes importantes, pourquoi pas Marseille, par exemple, tout en poursuivant sa stratégie de dédiabolisation. Bon. Rendez-vous dimanche 20h demain pour les résultats. Le PS, l'occasion de prendre l'ascendant sur quoi? Ben, sur notamment LFI. Hein. Un scrutin de transition chez les écologistes qui redoutent de perdre des villes, celles qu'ils avaient acquises en 2026. Les Républicains, alors Républicains aujourd'hui, politiquement, c'est très faible. Mais historiquement, c'est un parti qui a été très présent localement. Et ça prend du temps à changer. Donc le poids politique local de LR est très important par rapport à son poids politique national. Donc d'où ce titre de Libération se repose sur leurs acquis. Renaissance, bon, en mode profil bas. Donc ça, c'est Gabriel Attal, qui ne s'est pas très mobilisé pour ce scrutin, alors que Attal, lui, vise plutôt 2027. Horizon, un peu pareil. Le gros enjeu pour Horizon, c'est que le patron du parti Horizon, Édouard Philippe, ne se fasse pas virer du Havre, dont il est le maire, alors que plusieurs sondages évoquaient le fait que les communistes pouvaient reprendre la ville. Voilà. Et puis, vous avez un coup de projecteur sur Paris. Alors, Paris, c'est très intéressant parce que, sans rentrer dans le détail, vous avez potentiellement plein de candidats qui peuvent passer la barre des 10%. Et donc, avoir au deuxième tour, 10%, c'est la barre à partir de laquelle tu peux rester au deuxième tour. Et donc, plutôt qu'un duel, tu peux avoir trois candidats au deuxième tour. Merci, Bizarre Boy Accro. Voire quatre. Voire cinq. Et là, c'est le jeu des alliances. C'est le jeu des alliances, pré-deuxième tour, post-premier tour, tractation, discussion, et un candidat très bien placé, par exemple, s'il ne fait pas les bonnes alliances ou s'il n'arrive pas à faire alliance, il peut ne pas être élu. Voilà. Donc, on a à Paris le duel contrarié entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Contrarié par quoi? Donc, Dati droite, Emmanuel Grégoire, la gauche actuellement au pouvoir, par les autres partis. Hein, la performance, par exemple, de Sarah Kadhafo, la performance, par exemple, de Madame Chikirou, etc. Il y a Bournazel aussi dans ce jeu-là. Donc ça, c'est Paris. Vous avez à Marseille la possibilité que le RN prenne la ville. Hein. Vous avez à Lyon Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, qui est arrivé un peu comme dans un jeu de quilles, qui a tout bousculé et qui est en capacité de gagner contre le maire sortant Grégory Doucet, mais qui peut aussi se maintenir. Voilà, plein de situations locales. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est peut-être de, parce que ces infos, on les a évoquées ces derniers jours, peut-être de lire le papier général de Libé sur les grands enjeux ici de cette élection qui est ici. Ce qui me permettrait de vous rajouter une actu que j'avais notée ce matin sur ma petite liste, mais que j'ai oublié de vous mettre dans le sommaire. Et oui, parce que tout à l'heure, donc j'ai pris ma petite liste des sujets et j'ai pas pris la bonne liste. Je sais pas si vous arrivez à lire. Malo cookie, Solal roulé au chocolat, maman Queen Yaman ou si on n'a pas roulé à la cannelle, papa roulé à la cannelle et a partagé chouquette. Malo 9 ans, le week-end maintenant, il descend à la boulangerie qui est en bas de la maison. Et il prend les viennoiseries pour tout le monde. Voilà. Et en fait, ça c'est la... Ah, bah si, c'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté. J'avais écrit de l'autre côté. Ah, du coup, j'avais... Oui. Ah oui, parce que pour pas gaspiller, j'ai écrit des deux côtés. Donc bref, je lui ai fait une liste ce matin. Voilà. Et du coup, j'avais pas vu c'est de l'autre côté. Ah, ok. Alors, où est-ce que je l'ai vu, ce truc-là? Ah, voilà. Et donc, du coup... Il y a une info que je ne vous ai pas ajoutée, que je vais vous ajouter tout de suite, qui est celle-ci, sur laquelle on va revenir. Je pense que vous allez être content parce que c'est un sujet important. C'est page 15 dans Le Parisien. Ici. Le Parisien revient dans son édition ce matin, et j'ai oublié de vous l'ajouter, sur l'enquête de Mediapart sur les tweets néo-nazis de Quentin Derenque, le militant d'extrême droite tué à Lyon. Voilà. Et j'ai oublié de vous le mettre dans le sommaire. Donc je vous le rajoute, j'enregistre et je crée ce thème. Je reprends le titre du Parisien. Voilà. Et la source est donc le Parisien. Hop, on valide et on va mettre ça après les municipales. Ok. Donc, je finis avec les municipales et je reviens sur cette enquête de Mediapart qu'on a longuement évoquée dans la revue de presse d'hier vendredi, mais je voulais revenir avec vous sur le sujet avec l'article du Parisien qui consacre une pleine page à ça. Hop, les municipales, lisons ce papier signé Dominique Albertini et Laure Ecchi dans Libération, la politique plongée dans le bain-marie. Qui étranglait avec son cordon sanitaire, hein. Avant, on parlait de cordon sanitaire pour l'extrême droite, et puis maintenant, certains parlent de cordon sanitaire contre LFI, je pense que vous le savez. Hein, cette phrase évoque ce sujet. Foin de mobilité douce, de végétalisation à fond, de politique du logement ou d'accès aux soins, dans cette campagne municipale, les appareils politiques auront avant tout turbiné sur cette question. Du RN ou de la France insoumise, qui et selon quelle modalité exclure le plus efficacement de toute combinaison politique. Le scrutin dans le premier tour se tient ce dimanche ne peut pas, bien sûr, être réduit à ce jeu de massacre. Oui, bain, mairie, ouais, très bon titre. Pardon, j'ai fourché. Dans les 34 900 communes, on a monté des listes, tracté sur les marchés, confronté des propositions. Les plus petites voteront pour la première fois pour des listes complètes et strictement paritaires. À Paris, Lyon et Marseille, les électeurs seront appelés à départager des listes d'arrondissement et à élire directement leurs représentants à la mairie centrale. Alors quelqu'un me demandait tout à l'heure, Sam, est-ce que tu penses que la participation sera forte dimanche? Je dis, j'en ai aucune idée. Après un cru percuté par le Covid en 2020, la participation devrait rebondir, bien que des sondeurs s'attendent à un taux plus bas qu'en 2014. D'autres éléments ont fait écran à cette campagne, comme le conflit en Iran, relève Brice Teinturier, le directeur de l'Institut de sondage Ipsos BVA. BVA, pardon. Avec plus de 900 000 candidats sur les listes en lice, c'est énorme. Vous avez 900 000 Françaises et Français qui sont candidats. Vous vous rendez compte, presque 1 million?
Des millions. Des millions, vous êtes charmant. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
1 million, vous vous rendez compte? On y est presque, c'est énorme. Avec plus de 900 000 candidats sur la liste en lice, un chiffre stable, la démocratie locale résiste tout de même à l'écœurement qu'inspire souvent les batailles rangées qui hystérisent et paralysent le Parlement. Mais au niveau national, les états-majors censés organiser le débat public autour de sujets d'intérêt général ont, eux, cultivé cette obsession de moins en moins morale, de plus en plus tactique. C'est pas la politique, dans ce cas-là, le plus noble, le débat sur comment on organise la vie publique pour que les gens arrivent globalement à vivre ensemble, mais c'est la politique politicienne, c'est les appareils. Désigner l'ennemi politique numéro 1. La droite et l'extrême droite pointent LFI, jugeant dorénavant indéfendable tout rapprochement entre le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et les autres partis de gauche. Hein. Ce discours préexistait à la campagne. Il a été dopé aux stéroïdes par la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenque. Ça tombe bien, on en parle dans un instant. Le 14 février à Lyon, après une altercation impliquant des membres de la jeune garde proche du député LFI Raphaël Arnaud, puis par des propos de Jean-Luc Mélenchon, à nouveau accusé d'antisémitisme après de lourdes allusions au patronyme de Jeffrey Epstein et Raphaël Glucksmann. Tous ces sujets, on en a parlé pendant des heures sur la chaîne. C'est du pain béni pour le RN, estime Libération, trop heureux de refiler la tunique de Nessus à la gauche radicale. Tunique de Nessus? Putain, j'ai pas l'expression. Ah, évidemment, vous les cultivez, vous savez, mais moi je sais pas. Tunique de Nessus. Ah, Libération, ils se font plaisir. Étale ta culture. La mort d'Hercule, la tunique de Nessus. Allez, let's go. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un jour, Héraclès. Oh là là, c'est long. Il n'y a pas un. Que signifie l'expression tunique de Nessus? Vêtement offert par Déjanire à Héraclès, probablement imprégné du sang de centaure Nessus ou Nessos. Attends, on est dans question pour un champion là ou quoi? Blessé mortellement par Héraclès, Nessus, pour se venger, a fait croire que son sang est un puissant filtre d'amour. Lorsque le héros revêt la tunique, celle-ci adhère à sa peau en occasion de mortelles brûlures. Ah, c'est un cadeau empoisonné, quoi. Ah! Cadeau empoisonné qui cause la perte de celui qui le reçoit. Cheval de Troie. Eh ben, il pourrait pas dire ça à Libé plutôt là. Hein? Oh là là, comment ça se la raconte? Comment ça se la raconte? Hein? Libé, je vous reprends la phrase. C'était du pain béni pour le RN. Trop heureux de refiler la tunique de Nessus à la gauche radicale. Oh là 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 là! C'est pas grave, j'ai rien compris. Et une occasion providentielle. Pour Bruno Retailleau, de contrarier les stratégies locales d'union des gauches en dénonçant des accords de la honte. Donc la droite et l'extrême droite qui mettent la pression sur les écologistes, les socialistes, les communistes en disant « Vous ne pouvez pas, c'est la honte, faire des alliances avec LFI, ok ?» Pour le président de LR, s'il n'y a plus d'équivalence entre le RN et les insoumis, c'est au détriment des seconds, hein, qui doivent faire les insoumis faire l'objet d'un barrage systématique. Bon, c'est normal qu'on dise cela à droite, bien sûr. Quitte à voter RN, pour l'interrogation, l'idée n'est jamais formellement écartée. Si la droite n'ose pas encore parler d'alliance avec l'extrême droite, le terme digue semble avoir disparu de son vocabulaire. À droite, aucune réaction substantielle n'a suivi les révélations par la presse des propos racistes et antisémites tenus en ligne par de nombreux candidats RN. Au sein du camp présidentiel, où on avait contribué entre les deux tours des législatives de l'été 2024 à monter le barrage anti-RN, en se désistant et en appelant à voter pour des candidats de gauche mieux placés pour battre l'extrême droite, les figures du bloc central ont changé de pied et, sauf rares exceptions, appliquent désormais le même tarif contre l'extrême droite et LFI. Alors, est-ce qu'il va y avoir des alliances entre les socialistes, les écologistes, les communistes et LFI pour ces municipales? À gauche, le PS et les écologistes, même s'ils ont pris leur distance avec LFI, n'excluent pas d'éventuels accords avec les insoumis, au cas par cas pour les Verts, dans de rares cas, disent-ils, pour les socialistes. De ce côté du spectre, l'extrême droite reste la seule cible légitime d'un front républicain. Pour envoyer à la droite ses accusations de collusion avec les extrêmes, les socialistes dénoncent des fusions cachées et des pactes de non-agression entre candidats de droite et d'extrême droite. Comment endiguer la montée du RN au PS comme à LFI? La question d'un désistement au profit d'un concurrent mieux placé se posera au cas par cas, indiquent des sources dans les directions des deux partis. On a toujours empêché que l'extrême droite gagne, y compris en se désistant, rappelle-t-on chez LFI, mais on se demandera aussi si c'est utile. Il y aura des villes où la victoire de l'extrême droite semblera certaine. Dans ces cas, vaut-il mieux se désister alors que cela ne changera rien ou se maintenir pour être présent dans l'opposition? Ok. Alors, là on parle des alliances. Certes, rappelle Libération, dans plus de 90% des communes où une ou deux listes se présentent, l'élection sera jouée dès dimanche. Voilà. D'où l'importance, notamment dans les petites villes et les villages, de voter dès dimanche. Hein, parfois, moi, ça m'est pas arrivé il y a longtemps, ça, moi, de dire « Ah, oh, je voterai au deuxième tour ». Et puis, il n'y a pas eu de deuxième tour. Je me demande, ça m'est pas arrivé une fois. Ailleurs, le nombre de listes en mesure de se hisser au second tour, il suffit de recueillir au premier 10% des suffrages exprimés, pourrait bondir. Et oui, parce que cet éclatement du paysage politique français, eh ben on va le retrouver au municipal. Au temps où il existait une bipolarisation quasi parfaite, on n'avait quasiment pas de triangulaire. Le paysage politique est de plus en plus fragmenté, rappelle Brice Teinturier. Effet de l'émiettement de l'offre et la montée en puissance de deux acteurs, LFI et le RN, eh bien on va avoir sans doute beaucoup plus de second tour à 3, 4, 5 candidats. T'as pas besoin de ta carte électorale, Ro. Ta carte d'identité suffit. Dernière question. À un an de la présidentielle, le résultat des municipales se prêtera-t-il à une lecture nationale? Le découpage plage croissant entre ces deux niveaux incite à la prudence. Les trois partis les mieux représentés à l'Assemblée, RN, LFI, Renaissance, sont aussi les moins puissants localement. Situation inverse que celle du PS et de LR. Le vote sanction contre le pouvoir, qui est un traditionnel enjeu des scrutins intermédiaires, n'a pas beaucoup de temps dans un pays qui est sans majorité depuis 2024, puisque le pouvoir n'est pas au pouvoir, hein, et alors qu'Emmanuel Macron ne peut plus se représenter. Plutôt qu'un galop d'essai pour 2027, Brice Teinturier préfère parler d'un test de pertinence de telle ou telle stratégie. La stratégie Gaza, par exemple, de LFI pour mobiliser dans les quartiers populaires, des électeurs habituellement abstentionnistes, va-t-elle fonctionner? La ligne de rupture avec LFI, prônée désormais par la direction du PS, va-t-elle tenir ou se lâcher? On mesurera aussi la porosité sur le terrain entre la droite et le RN. Ces municipales sont porteuses d'enjeux majeurs. Je trouve que l'analyse de Teinturier est vraiment bonne, qui pèseront sur la campagne présidentielle 2027. Je vous lis. Oui, la carte d'électeur n'est pas obligatoire, mais effectivement, elle est utile pour permettre aux assesseurs de se trouver plus vite sur le recueil d'électeurs. Ça fait gagner du temps, notamment dans les grandes villes, donc Zarnir a raison. Si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous pouvez voter, mais si vous l'avez, amenez-la, ça fait gagner du temps. Je crois que je l'ai, moi. Ça fait gagner du temps dans le bureau de vote. Et comme le rappelle l'exutoire, a priori, la carte vitale avec photo et le permis de chasse marchent aussi. Et Sugar nous a même mis un lien de public Gouv avec toutes les infos. Je l'épingle, merci mon Sugar, pour vous qui voulez vous renseigner sur ce qu'il faut pour pouvoir voter. Est-ce que je suis inscrit sur la liste électorale? Où est mon bureau de vote? Quelle pièce d'identité dois-je amener? Etc. Il y a l'ami Jean Massier qui est dans le live et ça fait bien plaisir. Je le vois parce qu'il est en VIP et qui écrit: la carte d'électeur, ça sert à être sympa avec les gens qui passent leur dimanche à tenir les bureaux de vote. Et je vous signale que Jean Massier fait une soirée spéciale municipale qui commence tôt, je crois, demain dimanche. Voilà. Et si vous cherchez une chaîne de qualité avec un programme de qualité pour suivre les résultats, les analyses de ces élections municipales, ben vous savez où aller. Il faut aller chez Jean. Voilà. Alors moi, je lancerai une petite soirée un peu plus tard, sans doute juste avant 20h, où on ira faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'on ira voir les articles qui seront mis en ligne. Article du Monde, du Figaro, de Libération, du Parisien, pour voir les premières analyses. Mais Jean, grosse soirée électorale, invité, et tutti quanti. Hein, Jean, c'est ça? Bravo. Et merci de faire ça. L'adresse est Jean Massier, collé. J-E-A-N-M-A-S-S-I-E-T. Et Jean me dit, c'est ça, oui, ça va être chouette. Comme ça, vous pourrez voir l'ami Jean. Et puis nous, on ira lire des articles comme d'habitude. Non, pas Jean Massier collé. Et puis, alors, tiens, dernière chose, tu sais que dans certains bureaux de vote, on va proposer à certains électeurs de participer au dépouillement. C'est comme ça qu'on dit. Et donc, c'est une question traditionnelle. Alors moi, j'ai toujours une bonne excuse. Ah non, je ne peux pas participer au dépouillement des votes parce que ben, je bosse. Ouais, en général, j'avais des soirées électorales sur les chaînes où je travaillais. France Info, France 3 et autres. Et donc là, je serai en live avec vous demain soir. Donc je ne pourrai pas... Mais voilà, si vous avez du temps dimanche soir pour aider les gens qui donnent de leur temps, pour que la vie démocratique puisse se passer dans de bonnes conditions dans notre pays, en vrai, c'est cool. Voilà. Ah. Et la carte d'électeur, c'est surtout sympa parce qu'au bout de 12 tampons, tu as une pizza gratos. C'est une fake news, mais elle est sympa. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus aujourd'hui sur les enjeux au niveau local dans certaines villes ou pour certains partis, n'hésitez pas à acheter Libé ou à retrouver le Lacroix d'hier qui était très bien aussi. On peut aider à dépouiller les votes quand on n'est pas dans notre secteur de vote? Je suis pas sûr, Navilus. Je pense qu'il faut être membre quand même de ce bureau, je dirais. Ce qui serait assez logique. Je pense, hein. Ouais, mais je le dis comme ça, un peu au doigt mouillé. Ok? Voilà. Et surtout, Votez pour qui vous voulez. Bah, mais votez. Encore une fois, je comprends que le spectacle de la politique ne soit pas toujours passionnant et fascinant et enthousiasmant. Voilà. Et que on ne retrouve pas forcément un candidat ou une candidate qui reflète réellement ses convictions, ses valeurs, ses choix. Je le rappelle, le seul candidat qui peut vraiment vous correspondre à 100%, c'est vous. Donc à la rigueur, présentez-vous. Mais pour moi, l'argument décisif qui doit nous décider à aller voter, c'est que si vous ne votez pas, vous laissez les autres décider à votre place et prendre le risque qu'ils choisissent un candidat encore moins bon que celui que vous auriez choisi. Donc voilà, et ça, moi je déteste que les autres choisissent à ma place. Donc n'hésitez pas à vous déplacer. Et s'il n'y a qu'une liste, pareil, voilà, c'est une façon de remercier ceux qui s'engagent pour la vie politique locale. S'il n'y a qu'une liste, c'est parce qu'ils sont les seuls à vouloir y aller. Et donc d'aller voter quand même, c'est une façon de les remercier pour ce temps qu'ils donnent. Et si vous n'êtes pas content de cette liste et de son programme, si elle est unique, eh ben, fallait en proposer une. Voilà. Ok? Allez. Donc, moi, j'avais oublié de vous mettre l'article, mais on va y revenir sur cet article du Parisien qui suit la publication par Mediapart de cette enquête que nous avons lue hier. Et d'ailleurs, à ce propos, hier, on lisait Mediapart, qui est un média de qualité dont le contenu est accessible sur abonnement, puisque Mediapart n'a pas de publicité notamment, et donc ne vit que grâce à l'argent de ses lecteurs. Et je vous ai dit, bon ben, c'est une enquête qui fait plusieurs pages, je vous ai dit, bon ben, moi j'y ai accès parce que je suis abonné, mais je pense que pour pouvoir la lire, vous devez être abonné à Mediapart. Eh bien, c'est faux. Je suis allé vérifier ce matin. Il arrive que certains articles de Mediapart soient accessibles gratuitement, c'est le cas. Cette enquête, cette énorme enquête de Mediapart, elle est accessible gratuitement sur le site de Mediapart. Donc, voilà, vous pouvez aller la lire même si vous n'êtes pas abonné. Voilà. En attendant, voici l'article du Parisien sur cette enquête intitulé. Oui, l'efficateur, tu as raison. Les tweets néo-nazis de Rank. Hier, il était bien pour les abonnés. Ah! Ok, ils ont changé, c'est gratuit tout ce week-end. Tout Mediapart est gratuit ce week-end pour les municipales. Ok, donc hier, il était pour les abonnés et il est gratuit ce week-end. Bon, profitez de ce week-end pour aller lire Mediapart. Ok, pas de souci. Les tweets néo-nazis de Derank, Mediapart a donc exhumé, nous raconte le Parisien, ce samedi matin, des posts xénophobes et racistes attribués aux militants identitaires tués à Lyon. Lisons ce papier d'Ariel Guez. Des milliers de posts publiés via un compte anonyme sur X montrant l'étendue de sa pensée raciste et antisémite, construite autour d'une glorification du fascisme, une nostalgie du nazisme. On a lu quelques-uns de ses tweets hier, selon une enquête. Là, c'est la source des infos du Parisien. Publié par Mediapart, le militant identitaire Quentin Derank, tué à Lyon début février, plaidait en ligne pour le fascisme, glorifiait le nazisme et multipliait les propos racistes. On veut le fascisme, je soutiens Adolphe. On se passerait bien des médecins arabes, mort totale des nègres, désolé, hein, ce sont des tweets. Le RN a été fondé par des SS et c'est très bien. Ne sont qu'un échantillon des messages publiés par trois comptes anonymes attribués au jeune homme, qui qualifiait aussi Simone Veil de salope meurtrière pour son combat contre l'interruption volontaire de grossesse. Les idées d'extrême droite de Quentin Derank étaient connues. Il a milité aux côtés de l'Action française, un mouvement anti-républicain et historiquement antisémite. Il est aussi passé par les milieux NR, nationalistes révolutionnaires, mouvance ultra, héritière du GUD. Le jeune homme avait également pris part l'année dernière au défilé annuel à Paris du comité du 9 mai, caractérisé par l'abondance de croix celtiques néofascistes. Mais c'est la première fois, donc tout ça on le savait, on va dire le positionnement politique de la personne, mais c'est la première fois qu'autant de messages publiés par Quentin Derank sont exhumés un mois après les événements du 12 février. Ce jour-là, le jeune homme a été roué de coups par plusieurs personnes encagoulées. Après un affrontement entre deux groupes de militants d'ultra-droite et d'ultra-gauche, il a succombé à ses blessures le samedi 14 février, vous connaissez l'histoire. 3 jours plus tard, l'Assemblée observait une minute de silence en son hommage. On a parlé longuement ici de cette histoire hier, Et j'ai rappelé, je vais rappeler que à aucun moment les idées politiques d'une personne ne valent que cette personne doit trouver la mort. Aucune position politique ne doit excuser, autoriser, permettre la mort d'une personne. Je le rappelle comme je le rappelle à chaque fois. D'ailleurs, Mediapart ne soulève pas la question en ces termes dans cet article, hein, dans son article et son enquête d'hier. Si des propos, si des idées tombent sous le coup de la loi, ce qui est le cas des propos que nous évoquons ici, antisémites, racistes, glorifiant le régime nazi, sexiste, etc. S'ils tombent sous le coup de la loi, on porte plainte, ces gens sont poursuivis, voilà, ils sont condamnés, et ils paient leur dette à la société. Mais ça n'est pas aux citoyens dans la rue d'appliquer on ne sait quelle justice. Voilà, donc ça c'est la base, mais rappelons-le. Et d'ailleurs, le débat évoqué par Mediapart dans son enquête, c'est pas tant que est-ce que ces idées justifient la mort? Évidemment que non. C'est quid de la minute de silence à l'Assemblée nationale par les élus de la République pour une personne dont on sait aujourd'hui qu'elle aurait tenu ses propos sur Internet. Le débat, il est plutôt celui-là. C'est ça le débat. D'ailleurs, le Parisien le rappelle ce matin. 3 jours plus tard, l'Assemblée nationale observait une minute de silence en son hommage. Et le samedi 21, une manifestation regroupant l'extrême droite identitaire rassemblait plusieurs centaines de personnes, vous vous rappelez, à Lyon. Un défilé marqué par des propos racistes et des saluts nazis. Quentin Derans qui avait été présenté comme un martyr. Dans les heures qui ont suivi les révélations de Mediapart ce jeudi, il y a eu plein de réactions politiques. C'est l'intérêt de l'article du Parisien qui nous donne ces réactions politiques que nous n'avions pas encore trop hier matin. Et ont dénoncé les messages terrifiants du militant. Celles et ceux qui ont soutenu la minute de silence à l'Assemblée ont-ils des remords? Interroge par exemple Gabriel Catala, député LFI du Val-d'Oise-sur-Ix. En démocratie, le débat politique ne devrait jamais conduire à la mort de quiconque, mais que la droite et l'extrême droite aient cherché à transformer en héros un jeune néo-nazi, raciste et antisémite au dernier degré, est une honte, écrit Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Quentin Derancke a été une victime, il ne sera jamais un héros, a-t-il déclaré. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dont vous parlez beaucoup dans le chat, se dit horrifiée par ces révélations, selon les déclarations de son entourage aux Parisiens, et de rappeler que la minute de silence a été adoptée à l'unanimité en conférence des présidents sur proposition d'Éric Ciotti, donc patron du parti UDR allié au RN, et sans aucune objection, y compris de Mathilde Panot. D'ailleurs, hier, je m'interrogeais parce que je n'avais pas l'info de savoir ce qu'avaient fait les députés LFI à l'Assemblée cette minute de silence, parce qu'à un moment, un article disait tous les députés se sont levés pour cette minute de silence. Et là, je me suis interrogé hier, parce que suivre l'info, c'est se poser des questions et s'interroger et vérifier quand on a un doute. Et un article disait hier, tous les députés se sont levés. Et je dis, même LFI? Et on est allé vérifier. Et on avait vérifié que oui, les députés LFI présents, corrigez-moi, mais c'est l'info qu'on a vue hier, les députés LFI présents s'étaient levés pour cette minute de silence. Et qu'en revanche, il y avait des députés LFI qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présents. C'est l'info, en gros, qu'on a trouvée hier. Et donc, c'est ce que rappelle l'entourage de Yaël Braun-Pivet. La minute de silence a été adoptée à l'unanimité en conférence des présidents sur proposition d'Éric Ciotti, sans aucune objection, y compris de Mathilde Panot. Une décision prise dans un contexte de grand émoi, dit l'entourage de la présidente de l'Assemblée. J'enlève le message épinglé sur la carte d'électeur, là. On n'a plus besoin. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever, bordel? C'est cassé. Les modos, vous pouvez me virer le message épinglé, c'est bugué de mon côté, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez déjà essayé. Ah, c'est bugué, j'arrive pas non plus. Bon, super. C'est pas grave. Il y a pire comme message épinglé. Rendre hommage à un jeune homme tuer de manière violente ne signifie en aucun cas approuver ses idées ou ses propos. Ces hommages rappellent le rejet de la violence par l'Assemblée, affirme l'équipe de Yael Braun-Pivet. L'avocat des parents de Quentin Derenque, maître Fabien Rajon, a réagi en fin de journée auprès du Figaro, parce que Mediapart a expliqué qu'ils ont communiqué tous les tweets à l'avocat de la famille, qui lui avait dressé, l'avocat, hein, un portrait très positif du jeune homme. Et Mediapart a expliqué avoir envoyé tous ces messages à l'avocat, lui demandant une réaction, et l'avocat a refusé de répondre à Mediapart. Donc là, l'avocat a réagi en fin de journée auprès du Figaro. Ces tweets, a-t-il déclaré, s'ils sont bien avérés, sont évidemment condamnables. Pour autant, il ne pouvait justifier le lynchage à mort de Quentin. Je ne peux pas m'opposer à cette phrase. C'est une évidence. Dénonçant le fait que ces révélations soient faites un mois jour pour jour après ce meurtre. Rien n'est décidément épargné à sa famille. C'est intéressant parce que l'avocat ne conteste pas les tweets. Alors ça, moi, je m'attendais à ce que l'avocat de la famille affirme que ces tweets n'ont pas été écrits par le jeune homme. Et moi, c'est l'une des surprises de cet article. C'est que je découvre dans Le Parisien que l'avocat qui a pris contact avec le Figaro ou qui a répondu au Figaro ne les remet pas en cause. En fait, je m'attendais, au vu de la position de l'avocat depuis le début, qu'ils disent que c'est une manipulation, que c'est faux, qu'ils sont inventés ou que c'est pas lui qui les a écrits. Et la phrase de l'avocat, c'est « Ces tweets, s'ils sont avérés, sont bien évidemment condamnables. » Je m'attendais pas à ça, en fait. Bon. Et l'avocat qui déclare « Rien n'est décidément épargné à sa famille qui n'a toujours pas su entamer son deuil compte tenu de l'acharnement dont elle est victime. » Avant que les propos racistes de Quentin Derenque ne soient révélés, Sébastien Chenu, vice-président du RN de l'Assemblée, avait déclaré en début de semaine à Lille que le militant nationaliste était des nôtres, il était de notre tribu. Le député RN de la Somme, Mathias Renaud, avance dans une série de tweets qu'il n'existe pas de preuves matérielles. Dans l'article de Mediapart, le parlementaire affirme que la mort de Quentin Derenque n'est pas justifiée. Personne ne doit dire de toute façon que la mort de Quentin Derenque est justifiée. Dans l'enquête sur la mort de l'identitaire, 9 individus ont été mis en examen, donc là c'est le point sur l'enquête, et placés en détention provisoire. Parmi eux, l'ex-attaché parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, quelques-uns ont reconnu avoir frappé Quentin Derenque ou d'autres victimes, mais tous nient avoir eu l'intention de le tuer, selon le procureur de Lyon. Je vous lis. Pour ceux qui s'interrogent, parce que le débat qu'on a eu hier, c'était est-ce que Mediapart est sûr ? Comment les journalistes de Mediapart qui ont travaillé sur cette enquête pendant plusieurs semaines, comment sont-ils sûrs que derrière les comptes, ce sont des pseudonymes, les trois comptes X qui ont posté ces milliers de tweets, hein, c'est pas c'est deux, trois tweets, c'est des milliers de tweets. À un moment, on s'est rendu compte en faisant le calcul qu'il y avait un de ces comptes qui publiait à hauteur de 20 tweets par jour. Donc, comment Mediapart peut-il être sûr que derrière ces comptes, c'était bien Quentin Derenque ? Dans l'enquête, il y a un encadré, un paragraphe qui explique la méthodologie de Mediapart pour le faire. Donc là, vous irez voir, puisque l'article est gratuit, il est accessible gratuitement. Vous allez sur Mediapart, vous avez l'enquête et vous avez l'encadré qui explique la méthodologie de Mediapart. C'est accessible, donc. Vous avez bien compris que le débat aujourd'hui n'est pas sur la justification de la mort du jeune homme, mais bien sûr, notamment, la récupération politique des uns et des autres, et notamment cette minute de silence à l'Assemblée. Le débat, il est plutôt sur ça. On s'en fiche qu'il n'ait pas expliqué, la famille a confirmé que c'était lui. Toi, tu as l'info que la famille a confirmé que derrière ces tweets, il y avait Quentin Derenque ? Quelle est la source de ton information, Nekoda ? Moi, j'ai lu dans le Figaro l'interview d'un ami, d'un proche de Quentin Derenque, qui, selon cet ami, effectivement, c'était bien Quentin Derenque qui était derrière les tweets. Un ami de Quentin Derenque, dans le Figaro. Et toi, tu nous parles de la famille. Quelle est la source de ton information ? Volvic, Evian, Perrier, t'inquiète, frère ? C'est important, là, la rigueur de l'info, les gars. Je ne l'ai pas vu, ça. Mais peut-être que j'ai raté une info. On attend la source. Hein. Dis donc, Sugar. On parle pas de caca ici, parce que c'est un sujet sensible. Je vous lis encore un petit peu. Eh oui, Noctali, eh oui. Ah, je voulais dire un proche, en effet, my bad. Ouais, bah oui, tu vois, Nekoda, c'est comme ça que. Tu vois, c'est un tout petit niveau, tu vois, ça a l'air de rien, mais c'est comme ça que naissent les fausses informations, tu vois. Quelqu'un écrit sans vérifier, puis c'est repris par quelqu'un, voilà. Et l'information sur Internet circule comme ça aujourd'hui. C'est un manque général, je ne dis pas ça pour toi, hein, de rigueur, de vérification, je l'ai vu, donc c'est vrai, et puis je veux pas aller vérifier l'info, et c'est comme ça pour tout. Donc c'est rien du tout à ton petit niveau, c'est pas grand-chose, tu vois, ça se débug très vite. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui l'information elle circule comme ça. Et faites vraiment attention. Et ça va être de pire en pire. Et à un moment ça va avoir des conséquences sur notre pays gigantesques. Voilà, c'est genre l'info me plaît donc elle est vraie. C'est ça, Ericite. Et ça finit par des rends l'argent à l'Assemblée. Espèce de gros pervers et que sais-je encore. N'est-ce pas, monsieur Pro?
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Faut travailler, Pascalou. Ben ouais, faudrait voir à se renseigner un petit peu, c'est pas grave. Mais voilà, l'information aujourd'hui, c'est ça. Bon, on va finir avec une info positive. Oui, parce que ça va, quoi. On va parler de musée. Comment ça, des gens t'ont traité de pervers? Non, des gens, alors de pervers et de pédophile. Ce moment, le truc, enfin, des gens, enfin, ils sont quatre, hein, mais ça fait du pédophile. Sur le réseau du chétan, je suis un pédophile. Si j'avais du temps, tout ça se réglerait là où il faut, mais on a autre chose à foutre. Mais bon, après, on parle de très peu de gens, même si c'est parfois des milliers de likes. Mais bon, il faut comprendre que là-bas, ça n'est pas la vraie vie, là-bas, ça n'est pas la vraie information, ce n'est la vraie rien du tout d'ailleurs. Donc c'est pas très grave. Le jour où j'aurai du temps, je m'occuperai peut-être de tout ça, mais j'en ai pas le temps. Il n'y a rien qui va là-bas. Là, il faut sur Wallo. Non, il faut au tribunal. Donne ça à un avocat, il va gérer. Ouais. T'imagines le temps que ça va prendre, quoi. Oui, c'est vrai, Sugar, t'as raison. C'est vrai que la même histoire sur Insta et TikTok, elle est fine, mais il n'y a vraiment que là-bas que c'est un bordel, quoi. Mais oui, Scube, c'est bien tout le sujet. C'est qu'en fait, on voit rien. Mais voilà. Point d'exclamation, Zizi Gate, et vous avez toute l'info et la vraie info, et voilà. Mais bon, bah, moi, je suis un peu déçu. Parce que je pensais que ça me ferait plus de buzz, plus de vues, plus de. Voilà. Il y a une vidéo sur YouTube quand même qui raconte toute l'histoire. Et je pensais que la mobilisation de ces quelques comptes sur X allait me provoquer une publicité qui allait un peu me booster les stats. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tout ça n'est qu'une effervescence, une agitation, une mousse, qui finalement n'est pas grand-chose, ne correspond à pas grand-chose. Et parce qu'en fait, il se passe rien derrière. Et dans 2 jours, les gens passent à autre chose. Mais moi, j'espérais faire des stats, moi. Parce que moi, je suis un créateur de contenu. Eh ben, que nenni. Donc, je suis un peu déçu, quoi. Donc, messieurs les agitateurs, messieurs les menteurs, messieurs les désinformateurs, vous faites mal votre boulot parce que moi, j'attendais un petit bénéfice de tout ça. Un petit. Oui, des petites stats, des petites vues, des petits trucs. Pff, mais vous êtes. C'est ridicule. Très, très déçu. Ah, une nouvelle émote, c'est pas bête, ça. Bah, je voulais un buzz, quoi. Non, que nenni, Q-E. T'as pas pris l'argent? Ben non, j'ai pas pris l'argent. Y a pas d'argent, voilà. Y a pas de zizi, et puis y a pas de quoi encore. Y a rien, en fait. Mais pour ça, il suffit d'aller chercher l'info, quoi. Bon, on finit par les musées. Petite nouvelle positive. Ah, je suis déçu. Bah, je pensais que ça allait nourrir ma candidature pour 2027. Pas trop, quoi. Alors, il est où l'article? Il est là. On va parler des musées. C'est un bel article. D'abord, je voulais savoir qui est la personne qui a écrit cet article. Je ne le connais pas. Et puis, il n'est pas présenté comme un journaliste de Libé. Donc, moi, je suis toujours méfiant. Hein. Qui parle? Emanuele, peut-être. Coccia, on dirait un nom un peu italien. Merci, Luella. Merci, Everblock. Merci, Canard Laquais. Merci, Solber. Alors, comment il s'appelle? Emanuele. Ce qu'on dirait un petit peu. Coach. Oh, c'est un philosophe italien. Bah, dites-le, Libé, bordel. Dites-le, Libé. C'est marqué où, là, que c'est un philosophe italien? Alors, je suis censé le deviner, là? Alors, c'est marqué spécialiste de la botte italienne, ici? Ah là 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 là. Emanuele Coccia, né en 76, philosophe d'origine italienne, maître de conférences à l'école des hautes études, pardon, aux sciences sociales depuis 2011. Étoile en plus vieux. Hein, quoi? Quoi? Je vous racontais? Donc voilà, donc c'est un philosophe italien. Bon, maintenant on sait qui c'est. Toujours se demander qui parle. La plupart des informations, des fausses informations qui circulent sur Internet, elles ne sont pas portées par des gens dont vous connaissez l'identité. C'est le premier truc. Voilà. Hein. C'est des comptes. Est-ce qu'il y a une personne derrière? Qui? Plusieurs personnes? Qui? Voilà. Pseudo. Les fameux lanceurs d'alerte. Arrêtez d'insulter les lanceurs d'alerte. Vous n'êtes pas des lanceurs d'alerte. Vous êtes des gratteurs de buzz au service d'une idéologie toujours la même. Vous n'êtes pas des lanceurs d'alerte. Vous insultez le travail des lanceurs d'alerte. Que vous soyez à Chypre ou sais-je. Hein. Qui que vous soyez, arrêtez d'insulter les lanceurs d'alerte. Vous n'êtes pas des lanceurs d'alerte. Donc, voilà. Et là, le point commun entre tous ces comptes qui vous relaient des fausses informations, c'est que vous ne savez pas qui c'est. Premier réflexe, toujours, qui vous parle? Ok, Emanuele Coccia, philosophe italien. Ok, je sais qui c'est. Vamos. Enfin, Avanti plutôt. Fréquenter les musées. Enfin, une jolie phrase dans cette revue de presse. Fréquenter les musées, c'est toucher au sublime de l'humain. Et le philosophe écrit, c'est le remède le plus efficace contre toute fermeture identitaire ou nationaliste. On ne peut pas raconter l'histoire d'une civilisation sans parler des autres, parce que les cultures se sont toujours mélangées les unes avec les autres. Lisons. Je suis retourné récemment au Metropolitan Museum de New York, ce qu'on appelle le Met. Je le fréquente depuis des années, mais c'est seulement cette fois-ci que j'ai vécu dans ces salles quelque chose que je ne saurais définir autrement que comme un moment initiatique. Jamais auparavant, le besoin de ces lieux ne m'avait semblé aussi urgent, aussi proche du sublime. Pour la première fois, j'ai vraiment compris pourquoi on a besoin des grands musées encyclopédiques présentant des milliers d'œuvres et objets du monde entier. Le Louvre, par exemple, chez nous. Hein, mais il y en a plein d'autres. On a tellement de beaux musées en France. Il y a dans ces lieux la douce, amère conscience qu'aucune culture ne pourra jamais contenir la totalité de l'âme humaine. Chacune, mesurée à l'aune de l'étendue de notre expérience et de notre esprit, reste quelque chose de partiel, comme un morceau de tissu feutré face au manteau d'Arlequin. Juste pour ceux qui pensent que dans une identité, dans un pays, dans une nation, dans une culture unique, il y a l'humanité et que tous les autres, c'est des barbares, concentrez-vous, appliquez-vous. Les mots sont un peu compliqués dans cet article, mais je pense que vous pouvez apprendre des choses. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi on a besoin de rassembler des artefacts et des témoignages provenant des latitudes les plus reculées, des époques les plus lointaines, car pour répondre à la question de savoir ce que nous sommes ou ce que nous pourrions encore être, les histoires personnelles, ni celles des vies qui nous sont les plus proches, ne suffisent jamais. Se limiter à interroger nos pères, nos mères, nos grands-parents ou nos ancêtres pour définir les limites de l'humain est une forme de paresse inacceptable. Mais le musée encyclopédique est aussi le remède le plus efficace contre toute fermeture identitaire ou nationaliste. Le musée nous rappelle que précisément, parce que chaque culture est partielle, toutes ont besoin d'être composées, conjuguées, articulées les unes aux autres et ainsi redimensionnées, rendues à ce qu'elles sont, l'une des voies possibles, l'une des voies possibles, le long d'une nature commune, encore largement inexplorée. Il est beau cet article. Le musée nous apprend entre autres qu'on ne peut pas raconter l'histoire d'une civilisation sans parler des autres, parce que les cultures se sont toujours mélangées et confondues les unes avec les autres, dans le temps comme dans l'espace. Mais le musée n'est pas seulement le miroir de la pluralité des cultures humaines, il en est leur acteur principal, car il change le statut des objets et des œuvres qu'il conserve. Tout d'abord, par exemple, il génère par sa seule existence, le musée, une convergence entre les arts qui serait impossible à imaginer ailleurs. Selon lui, cette rencontre resterait une idée abstraite, un postulat dans le musée. Cette convergence entre les arts, elle devient évidente, presque charnelle. C'est comme si les objets, à force d'être les uns à côté des autres, échangeaient leurs gènes et leurs traits et devenaient soudainement des frères et des sœurs sans parents communs. Je trouve que c'est un très bel article. Dans les salles d'un musée, cette rencontre se produit comme une sorte de suspension du monde, et c'est peut-être pour ça qu'elle est plus puissante que ce qui se passe lorsque les acteurs de ces cultures sont encore en vie. Le fait de juxtaposer des objets nés dans des lieux éloignés produit des alchimies mystérieuses. Arrachés à la terre qui les a engendrés, dépouillés de la fonction pour laquelle ils avaient été pensés, les objets cessent d'appartenir à quiconque pour devenir quelque chose de plus vaste. Fragments d'une tradition sans frontières, voix d'une humanité d'aucun peuple, qu'aucun peuple ne pourra jamais revendiquer entièrement comme sienne. De cette manière, toute mémoire cesse d'être privée et exclusive. Aujourd'hui, c'est devenu une mode intellectuelle de critiquer les musées, de tout ramener à leurs origines monarchiques, impériales, coloniales. Merci multivatim, merci multiva, ah, merci multivitamine. Putain, je suis encore fatigué, je vais encore aller aux toilettes et revenir, la caméra ne s'est pas coupée. Ablas Carbone, merci. Louilia, merci. Mais ce cynisme qui se fait passer pour la profondeur critique a quelque chose de vulgaire et lâche. C'est naïf et même un peu paresseux de ramener la fonction et la nature des musées d'aujourd'hui à ce qu'ils étaient il y a 2, 3 ou même 4 siècles. L'origine n'est jamais la forme des choses. Ce n'est qu'un début toujours incertain et maladroit. On est plus qu'on était à 2 mois ou à 3 ans. C'est pour cela qu'il vaut la peine de vivre pour que l'expérience puisse nous changer. Ainsi, le musée est peut-être né dans des contextes monarchiques ou coloniaux, mais aujourd'hui, il représente une sorte de culte à ciel ouvert de nos désirs et de nos fantasmes les plus secrets. Et les plus beaux, un kaléidoscope infini des merveilles de la culture humaine, où les formes les plus inattendues et les plus extrêmes de l'imagination nous prouvent à chaque fois qu'elles sont aussi réelles que le soleil ou la mer. C'est une façon de montrer que malgré tout, au-delà de l'ambiguïté des horreurs, Dieu sait si on est servi en ce moment, l'espèce humaine a produit et continuera de produire des formes extraordinaires qui semblent venir d'autres planètes. Et beau cet article, non ? Voilà, je voulais terminer sur un truc un peu positif.
Vu que l'actualité est un petit peu lourde en ce moment.
Est-ce qu'il y aura un samedi des bonnes nouvelles cet après-midi ? Non, j'ai trop de travail. Il faut que je bosse sur des dossiers, il faut que j'invite des gens sur des streams, des trucs exceptionnels. Donc, il faut que je travaille tout l'après-midi sur autre chose. Il y a un monde où ce soir, je vous rejoins pour un petit peu de gaming, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de gaming ces derniers jours. Est-ce qu'on poursuit Kern ? Est-ce qu'on va sur... Est-ce qu'on fait un petit valo qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps voilà. On va essayer de faire ça ce soir. Et demain soir, soir électoral à partir de 19h45, je pense, 19h30, 19h45, sur cette chaîne. Sachant que l'ami Jean Massier fait aussi une soirée exceptionnelle. Nous, on ira lire des papiers, on ira lire des articles qui commenceront à tomber demain soir sur les premières analyses. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? On ira voir nos confrères journalistes de la presse écrite pour voir un petit peu comment on peut analyser ses premiers résultats. Voilà. C'est vrai, les TikTok qui tournent là ? Ah, tu veux dire les TikTok qui ont mis un flou sur un truc qu'on ne voit pas ? Pour faire croire qu'on voit un truc ? Eh oui, Ria Lema. Eh oui, Ria Lema. Ils sont très forts. Point d'exclamation. Comment j'ai appelé ça ? ZZGate. Dans le chat, et t'as toutes les infos, et t'as les vraies infos. Très fort le coup du flou sur un truc qu'on voit pas pour faire croire que derrière le flou on voit un truc. Ils sont très forts. Ou tu as raison, Navilus, moi je voulais le rappeler, mais tu fais bien de le rappeler. Le problème, c'est que certaines de ces œuvres dans ces musées encyclopédiques viennent du pillage de pays, de la culture de ces pays. L'auteur a raison, les musées sont résolument modernes. Il y a un gros travail de fait pour répondre aux besoins, aux sujets de société actuelle. Cependant, il y a un vrai besoin que les œuvres volées dans les musées reviennent dans leur pays. Tu as un milliard de fois raison. La France s'y est mise un petit peu, la restitution de ces œuvres volées. C'est le début d'un mouvement. C'est compliqué, mais oui, évidemment. Merci, Zatoïcha, pour ton message. Mais je voulais le rappeler, j'ai oublié, et tu viens de me faire penser, merci à toi. Merci les amis. Bon, je vais rejoindre la famille parce que c'est week-end, donc je vais aller manger avec mon amoureuse, avec mon grand de 9 ans. Mon moyen de 6 ans, mon petit de 11 jours, c'est le kiff. On marche sur l'eau, c'est comme un... Comment voulez-vous être atteint par la bêtise et la méchanceté de ce monde quand vous vivez ça? Comment voulez-vous que ça vous empêche de dormir? Comment voulez-vous que ça vous tracasse quand vous avez la chance de vivre ça à la maison? C'est ça le truc en fait. Donc on va déjeuner avec la famille. Je vais bosser cet après-midi sur des trucs. Je reviens ce soir pour du gaming. Demain soir, on se fait une petite soirée électorale. Voilà. Merci, Marcus. J'espère que la santé va mieux. Et on va arrêter, bien sûr. On va profiter du fait que vous soyez super nombreux ce matin. Ça m'a fait bien plaisir. Qui est en live? Qui est en live? Il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. Il y a du Choachin. Il y a du Aldé. Il y a du Ken Bogard. Il y a du citron violet. Il y a du Jardi Stream. Ah, c'est quoi ça? Parfois, il y a des chaînes que je... Oh, c'est marrant, ça. C'est drôle. Il y a notre ami chocolatier Paul Gardère. Il y a Chinou. Il y a une petite Marie pour de l'art. Il y a Martin, notre ami DJ préféré. Mais attends, Martin, ça fait des années qu'on l'a pas raid. Martin, notre... Ah, il y a Joe sur Pocopia? Ah, il y a Joe. Ah, il y a Joe. Il y a Joe sur Pocopia, j'avais pas vu. Ah, dommage pour Martin, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas raid, notre DJ préféré, mais Joe sur Pocopia. Il y a un article dans le Figaro, vendredi, je crois, sur Pocopia, le jeu de Nintendo qui a un succès de fou, là. Allez, c'est une bonne idée. Allez, on va voir Jojo. Jonathan, hein, de son vrai prénom, le Joe. DJOW, Joe Coco, le nom de sa chaîne. C'était jeudi dans le Figaro. Ah, il est là au moins? Il est là. Dites-lui, alors dites bien à Joe que si jamais il cut son stream et qu'il raid, qu'il fasse bien attention de ne pas laisser sa caméra allumée, de bien avoir cut le stream, si jamais il va aux toilettes. Ok? C'est très important. Par exemple, là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre ça. La dernière fois, j'avais oublié. Comme ça, je peux mettre le raid, et même si je vais faire caca, et quelqu'un m'appelle sur le trône en me disant t'as oublié de cut ton live, et que parce que je suis complètement vieux, gaga, distrait et fatigué, je me lève le caleçon sur les chevilles, eh ben vous verrez rien. Et voilà. Beau week-end, à ce soir, des bisous.